Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. L'hommage de Marseille à Bernard Tapie, l'ancien patron de l'OM, est célébré ce soir par des supporters qui sont venus habillés de bleu et de blanc dans le stade Vélodrome. Vous voyez ces images en direct tournées par nos équipes. Une cérémonie populaire que l'on va suivre sur CNews avec nos équipes sur place. Le cercueil de celui qu'ils appellent le boss sera porté jusqu'au centre de l'enceinte sportive. Vous le voyez ici même sur la pelouse. La famille, le public seront placés dans la tribune Jean Bouin. Des extraits de matchs, d'interviews de Bernard Tapie seront diffusés au cours de cet hommage que l'on va suivre dans quelques instants. Des tensions entre l'Église et le gouvernement à propos du secret de la confession. Après la révélation du scandale de la pédocriminalité dans le clergé français, le président de la Conférence des évêques a affirmé que la loi de la République était supérieure à celle, la loi de l'Église, pardon, était supérieure à celle de la République et que le secret de la confession ne pouvait pas être rompu. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, invite Mgr Moulin-Beaufort à venir le rencontrer la semaine prochaine pour des explications au ministère afin peut-être de remettre la République au centre du village. Le prélat rappelle à l'instant qu'il défend le secret de la confession que la République, dit-il, a toujours respecté. Du côté du Covid, pas d'allègement du pass sanitaire avant le 15 novembre. Le gouvernement continue de jouer la prudence malgré les promesses passées du président de la République et l'amélioration de la situation sanitaire. Une troisième dose est désormais demandée pour les soignants. Les tests PCR seront désormais facturés 44 euros à partir de la semaine prochaine. Et puis, en politique, le phénomène Zemmour continue de faire vaciller la droite. Alors que les sondages montrent qu'elle ne serait pas qualifiée pour le second tour face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen incite le polémiste à clarifier sa position et à se déclarer candidate. Ce dernier affirmait hier sur notre antenne n'avoir aucun intérêt à accélérer son propre agenda. Éric Zemmour qui a aussi mis le feu aux poudres à propos d'une circulaire de l'éducation nationale concernant les enfants transgenres. Que contient cette circulaire? On verra cela dans un instant. On débat de tous ces sujets d'actualité avec Karim Zerebi qui est consultant CNews. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Nous sommes avec le commissaire David Lebars. Bonsoir commissaire.
Bonsoir.
Secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Nous sommes avec Philippe Juvin. Bonsoir monsieur
Bonsoir.
Juvin. Vous êtes candidat à l'investiture LR pour la présidence et maire de la Garenne-Colombes, et Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. Bonsoir,
bonsoir
à tous. On va débattre de tous ces sujets d'actualité, mais tout de suite direction Marseille, alors que le cercueil de Bernard Tapie va bientôt arriver sur la pelouse du Vélodrome, porté par des supporters. Je vous propose un tout petit flashback. Bernard Tapie, qui me répondait il y a quelques mois dans Punchline, c'était en mai 2019, il évoquait son amour immodéré pour Marseille, sa ville de cœur. Écoutez-le.
Vous savez ce qui est émouvant à Marseille ? C'est que ceux qui étaient dans le stade pour vibrer parce que d'un seul coup, on devenait les meilleurs d'Europe après avoir perdu déjà une finale, gagné deux demi-finales, je veux dire, on n'est pas arrivé comme ça. Ça a été... Et bien ceux qui étaient dans le stade, c'est pas ceux qui aujourd'hui scandent mon nom au stade Vélodrome. Ceux qui m'adorent, c'est les enfants de ceux qui ont vécu ça. Ça veut dire que ce bonheur-là, ils arrivent à le transmettre d'une génération à l'autre. Donc, il faut faire tous les efforts pour rendre les gens heureux. C'est incroyable. Quand je suis à Marseille, je ne peux pas vous dire. Ils sont... Voilà.
Ça vous bouleverse.
Ouais.
Voilà pour cet hommage à Bernard Tapie. On en débat tout de suite dans Punchline.
Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari.
Il est 18h sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Tout de suite, direction le Vélodrome. On rejoint Laure Parra et Stéphanie Rouquier. Bonsoir Laure. L'hommage populaire va bientôt démarrer, ou a déjà démarré, si je le vois derrière vous. Laure, c'est bien cela ?
Effectivement, Laurence, l'hommage populaire, l'hommage voulu hein, avec les supporters de l'Olympique de Marseille a démarré il y a une petite dizaine de minutes dans l'enceinte du stade Vélodrome. Ils sont habillés, comme il l'avait dit, aux couleurs du club, en bleu et en blanc. Ils sont près de 5000 installés dans la tribune Jean Bouin, à droite et à gauche. Au centre, c'est la tribune présidentielle et on voit assis les joueurs actuels de l'Olympique de Marseille. Et depuis tout à l'heure, eh bien, comme si qu'ils étaient chacun dans le virage nord ou dans le virage sud, eh bien les supporters lancent une chanson, l'autre répond. Et pour animer, entre guillemets, cet hommage populaire est diffusé sur les grands écrans la première mi-temps de 93, la première mi-temps où l'OM a gagné à Munich face au Milan AC. Et cette première mi-temps va être diffusée surtout jusqu'à la 44e minute, pardon, cette minute-là où Basile Boli a marqué et ce qui a fait que l'OM est devenu à jamais les premiers, hein, c'est l'expression consacrée ici, Laurence. Et c'est à ce moment-là, d'après ce qu'on nous a expliqué ici, que le cercueil de Bernard Tapie devrait rentrer dans le stade par cette grande entrée qui est entre les deux virages et aller jusqu'au milieu du stade et être déposé face à tous les supporters et à la tribune présidentielle. Dans cette tribune présidentielle devrait également présent la famille de Bernard Tapie.
Merci beaucoup, Laure Parra, Stéphanie Rouquier, à toutes les équipes CNews sur place et Europe 1, bien sûr. Et on entend déjà l'ambiance dans le stade. Karim, on entend ces supporters qui disent leur amour à celui qu'ils appellent le boss, évidemment.
Exactement, Laurent, c'est un hommage qui était très attendu. Les supporters de l'Olympique de Marseille, les amoureux du club, vous savez, le football est vécu comme une religion à Marseille.
Et
Tapie, Bernard, a permis à l'OM de remporter la plus belle des coupes, c'est la Coupe des clubs champions en 1993. Et il est dans le cœur de tous les Marseillais, de tous ces supporters qui se sont réunis aujourd'hui dans la tribune de Jean Bouin et qui se renvoient donc les chants victorieux de l'Olympique de Marseille, avec au milieu cette tribune présidentielle qui est occupé, une fois n'est pas coutume, par les joueurs qui sont d'habitude sur le terrain, mais là ils sont dans la tribune présidentielle et ils vont rendre aussi hommage au boss, à celui qui a permis de restaurer une fierté à jamais pour les Marseillais, premier club français à gagner la Coupe des clubs champions, donc une ferveur extraordinaire dans cette ville et cette nostalgie toujours encore des supporters marseillais qui ont envie de revivre ces séquences du club, ces moments de joie, d'enthousiasme. Vous savez, le stade Vélodrome, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au stade Vélodrome, mais c'est une antre où l'ensemble des classes sociales, des gens de Marseille de toute origine qui se réunissent. C'est un endroit où vraiment les gens sont en folie pour le football. Les tapis, ben, il les a fait vibrer. Et aujourd'hui, il lui rend hommage.
Et Karim, on entend très bien les supporters qui acclament Bernard Tapie. Il y a la famille de Bernard Tapie. Il y a deux des petits-fils de Bernard Tapie qui ont fait un discours très émouvant à l'église Saint-Germain-des-Prés mercredi. Il y a ses enfants qui sont là et qui se prennent le choc. Cette émotion, cette vague d'émotion qui leur arrive depuis le stade, en plein cœur. Et
bien
évidemment,
sûr,
c'est un très bel hommage qui est rendu à leur père et grand-père.
Ben, ils savaient, la famille, que le père a adoré Marseille, que Marseille l'avait adopté. Et même sa famille, je pense qu'ils sont très amoureux de Marseille. Et là, ça doit les toucher profondément. Demain, c'est à la cathédrale donc de la Major. Et ensuite, il sera enterré, il faut le rappeler, à Mazargues, dans un cimetière qui est dans le prolongement du stade Vélodrome. Donc Bernard Tapie ne sera jamais très loin des supporters de Marseille.
Un petit mot, commissaire Le Bars, de cet hommage populaire à Bernard Tapie.
Bah vous savez, moi je suis plutôt rugby, mais comme je suis fan de sport, il me vient une idée, je suis sûr que Karim confirmerait. Si Bernard Tapie avait eu la présidence d'un club de rugby, je pense qu'il aurait réussi comme il a réussi dans le foot, parce qu'en fait il a réussi tellement de choses que ce gars-là, et je dis ça, c'est pas péjoratif, il est tellement volontariste que je suis quasiment persuadé que s'il avait eu un club de rugby, il aurait galvanisé aussi un club de rugby, voire plus. Mm-hmm. La deuxième chose qui me vient, c'est un peu plus politique, mais... il y a des gens qui ont disparu pendant la crise des Gilets jaunes, et quand Bernard Tapie a pris la parole pendant la crise des Gilets jaunes, il a dit des choses que peu de gens ont osé dire, et je pense que sa connaissance du peuple ou des gens fait qu'il aurait, s'il avait eu des responsabilités, il aurait pu faire des choses. Et puis la troisième, c'est que des policiers ont eu affaire à lui dans ses ennuis, et il n'y en a pas un qui n'ait pas dit qu'ils n'avaient pas en face de lui un battant, un mec qui se respecte, et il est parti avec cette image de battant. Il a en plus passé des messages par rapport à la maladie, et ce côté combattant, c'est ce que tout le monde lui reconnaît aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est trois choses qui me viennent à l'esprit.
Professeur Juvin, alors que l'hommage se poursuit au Vélodrome, il s'est battu contre la maladie jusqu'au dernier moment. Il a vraiment, à chaque fois qu'il le pouvait, remercier les équipes soignantes qui se sont occupées de lui. Il a aidé d'autres malades. Il a été très très attentif. Absolument. À tous ceux qui combattent le cancer.
Ce qui était extraordinaire, c'est que quand il rencontrait les équipes soignantes, il donnait autant de force aux équipes soignantes qu'il en avait lui-même. Il avait une énergie qui était une énergie transmissible à tous les gens qui étaient autour de lui. Et je ne sais pas qui soignait qui, mais quand il sortait d'un service, les gens étaient reboostés. C'était extraordinaire.
Céline Pina, la famille est réunie, la grande famille du football, pour cet hommage à Bernard Tapie, que évidemment tout le monde a en mémoire. On en vient d'entendre les mots qu'il disait à propos de Marseille. Il disait « je suis chez moi à Marseille ». Voilà.
Je voulais rebondir sur la vitalité dont parlait le professeur Juvin. C'est vrai que cette vitalité, elle était dingue. Moi, je me souviens, petite fille, dans les années 80, il faisait une publicité où, en fait, il incarnait une pile. C'était Duracell, en fait. Tapie, c'était Duracell. Donc, cette énergie qui rayonne et qui finit par rayonner sur tout ce qui l'entourait, c'était réel.
C'était pas Duracell, si je me souviens
voilà.
bien.
Alors, c'était Wonder. Pas Duracell. Voilà. Moi, ce dont je me souviens, en tout cas, c'était que cet homme, il avait l'air d'avoir plus de vie que les trois quarts des gens qui l'entouraient, y compris quand il rentre en politique, il amène une vitalité incroyable, et que cette vitalité, je trouve que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est en cela qu'il nous rappelle aussi les heures heureuses, les jours heureux. Voilà, je disais, il me fait penser aussi à Jean-Paul Belmondo pour ça. Ce sont des gens qui nous ramènent vers des jours heureux où le monde nous était promis, où on pouvait transmettre à nos enfants ce qu'on avait reçu. Et aujourd'hui, on est dans des temps difficiles, et on aime bien ces hommes qui nous ont fait vibrer dans ces temps-là.
Allez, un petit mot de Laure Parra, je ne sais pas si elle est encore avec nous, notre envoyée spéciale correspondante au Vélodrome. Laure, vous m'entendez, il y a beaucoup d'ambiance, ça y est, dans le Vélodrome.
Oui, il y a beaucoup d'ambiance. Vous savez pourquoi, Laurence? Parce qu'en fait, ils ont coupé en fait la première mi-temps qui est diffusée de ce match en 93. Et là, ils viennent de montrer le but de Basiboli, hein, le but de la victoire qui devait normalement arriver à la 44e minute. Alors, ils ont également coupé et interrompu la diffusion du match parce qu'en fait, la famille est arrivée hein, dans le stade. Je vais me taire juste un moment, Laurence, pour vous laisser écouter en fait ce qui se passe. C'est une ambiance digne de grandes rencontres de football. Hein. Les supporters ne pouvaient pas faire aussi bien que cela. Hein. Ils étaient convaincus qu'il fallait faire cet hommage en criant leur amour pour le maillot bleu. Hein. Comme ils disent ici, le maillot bleu et blanc. Et leur amour pour le boss, hein, Bernard Tapie. Alors, il se dit dans l'organisation, il était prévu qu'en fait, au moment où la famille serait installée et au moment où on aurait vu ce but de Basile Boli, le cercueil allait rentrer dans le stade pour être installé face à la tribune Jean-Bouin et face à la tribune présidentielle.
On continue avec vous évidemment à suivre cette cérémonie. Karim, c'est très émouvant, je trouve, ce moment de communion dans cette enceinte sportive.
Mais c'est très émouvant parce que c'est aussi cette étape de la vie de Bernard Tapie qui en a fait le personnage, j'ai envie de dire, public, connu, reconnu. Donc c'est cette victoire avec l'Olympique de Marseille, derrière son engagement en politique appelé par François Mitterrand aux responsabilités pour devenir ministre de la ville. Et tout ce que touchait Tapie à cette époque-là donnait le sentiment de ne pouvoir que réussir. Et on se souvient, il a eu derrière une carrière d'acteur, de comédien, de Tapie, c'est une énergie extraordinaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'hommage qui lui est rendu va nécessiter, je le pense, de la part des dirigeants de l'Olympique de Marseille, à prendre des décisions dans les heures ou les jours qui viennent, c'est peut-être de rebaptiser le stade Bernard Tapie. C'est attendu de la part des clubs de supporters, parce qu'aujourd'hui c'est l'Orange Vélodrome, demain ça risque d'être le Vélodrome Bernard Tapie. Je pense que ça ne serait que mérité. Il faudrait que sur le naming, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, donc l'Olympique de Marseille fasse une petite concession, mais je crois que Bernard Tapie le vaut bien. Donc à jamais les premiers, c'est à Bernard Tapie qu'on le doit. Donc ça, bon. Je crois que les Marseillais l'oublieront jamais.
Allez, on reviendra dans un instant au stade Vélodrome pour suivre cette cérémonie populaire. On va continuer à dérouler le fil de l'actualité. L'actualité, bien sûr, avec vous, commissaire Lebars, on va évoquer la condition des policiers, leur sécurité qui est mise en danger tous les jours. Il y a eu tous les jours, il y a malheureusement des actions violentes envers les policiers. À Lyon, deux gendarmes ont été, policiers force de l'ordre évidemment, gendarmes, renversés et blessés par un chauffard. À Marseille, des mineurs qui ont été recrutés et payés par des dealers pour caillasser les policiers. On leur envoie des boules de pétanque, on leur envoie aussi des parpaings. Ça, c'est le quotidien aussi des policiers.
Oui, c'est malheureusement, faut le redire à chaque fois, plus que le quotidien des policiers. Ça n'est pas que dans certains endroits qu'on vient d'évoquer. Hein. Ça s'est malheureusement répandu dans différentes villes ou territoires en France. C'est malheureusement une connexion entre la fiction et la réalité. Hein. Moi, j'ai tardé à aller voir Bac Nord, mais j'y suis allé et j'y ai vu, J'y ai vu tout ce qui est à la fois dénoncé et qui, je pense, attire le regard et la curiosité des Français. Vous savez ce qui a changé, en fait, aujourd'hui. Ces violences-là, moi, je les connais sur le terrain. Je les généralise pas. Il faut savoir aussi faire la part des choses. Mais ce qui change, je pense, aujourd'hui dans la société, c'est que les gens les voient de plus en plus. Donc, il y a un danger sur l'effet loupe. Le cinéma se l'approprie. À l'arrivée, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce quotidien? Voilà. On a aussi parfois discuté avant les plateaux. Il reste toujours un sujet que nos dirigeants doivent mettre sur la table, c'est de s'en prendre d'une bonne manière à cette délinquance et de ne pas la sous-estimer. Il faut pas la surestimer, il faut pas en faire un enjeu politique, parce que sinon on va être instrumentalisé. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on est dans une année d'élection, et le démarrage du débat politique, on voit bien où ça part, ça va partir dans des extrémismes, avec des postures qui n'engagent que ceux qui les tiennent, mais nous, on est sur le terrain, et on doit faire face à toute cette délinquance. Donc, il faut de la raison, il faut prévoir l'avenir. Ça, c'est, je pense que c'est là où le régalien a souvent été un peu faible. Et je loue la LOPCI, même si je ne suis pas naïf sur l'agenda politique,
dans
la loi d'orientation, voilà, et de programmation, qui veut prévoir une police sur les 6 prochaines années. Il faut même la prévoir plus loin. En revanche, je déplore qu'on ne fasse pas ça sur l'ensemble de la chaîne pénale. Puis à l'arrivée, qu'est-ce qui manque? C'est toujours la même chose. C'est les moyens qu'on doit donner à la justice, humains, matériels et les structures, pour punir les bonnes personnes. Voilà. Après, il y a des dispositifs législatifs à revoir, d'autres qui existent. On a beaucoup de solutions. Hein. Vous savez, j'essaye parfois de ramener les choses au droit et de ne pas rester dans l'émotion ou de ramener à la raison. Il y a souvent beaucoup de solutions qui ne sont pas appliquées. Je pense par exemple au toxicomane, au crack. Parfois, ça fait débat et polémique. Il y a beaucoup de choses à mettre en place dans l'intérêt général, et en tenant compte d'une chose qui a souvent été le grand oublié, c'est le citoyen, donc la victime.
Exactement. Et il y a des questions médicales et sanitaires aussi.
Bien sûr.
La question de la toxicomanie. Philippe Juvin, les policiers en danger en permanence, visés, pris pour cible, refus d'obtempérer, chaque jour à son cortège d'agressions contre eux.
Des tirs à la Kalachnikov à Marseille contre des policiers, dont on évite de parler soigneusement. Alors, évidemment, il y a la question des moyens. Comment fait-on pour que les peines soient appliquées? Parce qu'un des grands sujets en France, c'est qu'il y a des peines qui sont prononcées, mais qui ne sont pas appliquées. Moi, je pense qu'il y a aussi des moyens qu'il faut mettre en œuvre sans avoir à se mettre à attendre la construction de prison qui va mettre des années. Par exemple, il faut saisir tous les objets qui permettent de commettre un délit, la voiture, le téléphone. Il faut probablement aussi taper au porte-monnaie, c'est-à-dire qu'il y a des amendes. Eh bien, ces amendes, il faut défalquer les aides sociales dont on peut bénéficier de ces amendes pour qu'il y ait un prélèvement automatique. Il faut probablement imaginer des peines de prison très courtes. Oui, ce qui est délirant, moi je suis maire depuis 20 ans, et je vois des petits voyous, des petites crapules, qui ont 1, 2, 3, 10, 20, 30 rappels à la loi, et en fait rien ne se passe. Et ils savent qu'en fait rien ne se passera. Et bien, si vous les mettez 2 jours, 3 jours en prison, vous marquez le coup. En fait, la question c'est qu'il faut marquer son territoire. Aujourd'hui, ils ont l'impression que ce sont eux qui fixent la règle, il faut changer la donne. Si on attend, je vous le dis très sérieusement, si on attend la construction de 10, 20, 30 000 places de prison qu'il faut faire, on ne fera rien avant des années. Donc il faut imaginer des techniques qui vont nous permettre de donner un signal en disant « bah oui, là je vous ai pris votre voiture, là j'ai amputé vos allocations familiales, là je vous expulse de votre logement parce que vous embêtez la totalité des gens qui habitent ». C'est comme ça qu'on agira et qu'on reprendra le pouvoir. C'est une question de territoire à reprendre.
David Lebars, commissaire, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ?
Bien sûr. Alors moi je salue les élus qui ont eu le courage ces derniers temps d'afficher publiquement leur fermeté à expulser des familles quand les conditions juridiques sont réunies. Hein. Je suis très précis, il ne faut pas se tromper de cible, parce que expulser une famille de délinquants, c'est satisfaire tous ceux qui la subissent, et c'est permettre de reloger une famille qui va peut-être respecter, c'est même certain, parce qu'il faut rappeler qu'il y a 5% de délinquants dans ces quartiers, que parfois on a l'impression qu'il n'y a que ça. C'est un des défauts de Bac Nord d'ailleurs, parce que si on en reste au clip, on a l'impression que Marseille est un coupe-gorge, et ça n'est pas ça, et je connais Marseille. Mais c'est parce qu'on ne s'en prend pas aux bonnes personnes qu'on a l'impression qu'il n'y a que des délinquants partout, et surtout ceux qui s'en plaignent. Ceux qui vivent dans ces quartiers, moi je l'ai souvent dit sur votre antenne, hein, j'ai travaillé dans des quartiers difficiles où on pourrait imaginer, au vu de la délinquance, qu'aller dans une réunion de quartier le soir, c'est prendre des risques. C'est faux, c'est le contraire. C'est des gens qui y viennent pour espérer une réponse de l'État, une réponse des institutions, une réponse pénale, qui viennent discrètement parfois parce qu'ils sont sous l'emprise de ces trafiquants. Donc ces gens-là, je pense, on a un point commun entre les citoyens, la réponse de l'État ou des collectivités locales, de tous ceux qui doivent leur apporter une réponse, c'est de prendre en compte ce qu'ils vivent et de réaliser qu'on n'a pas réussi à traiter le problème. Moi, je vois des choses qui fonctionnent et après, il y a le blocage. Ce qui fonctionne, par exemple, je donne un exemple, dans une ville, quand on met en place un palmarès des délinquants et qu'on se met d'accord avec le parquet, parfois avec le maire, quand on est en confiance, on est capable de cibler le noyau dur. Et puis ensuite, quand il faut passer à l'action, on se rend compte que le noyau dur, on n'arrive pas à l'éclater, à le disperser pour le faire sortir de son phénomène de bande. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut progresser.
On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant. On continue à parler de ces questions de sécurité avec vous, commissaire Lebars, avec Philippe Juvin, Céline Pina et Karim Zerebi. À tout de suite dans Punchline.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
De retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, avec tout de suite le stade Vélodrome et le corbillard qui vient d'arriver sur la pelouse. Il y a le cercueil de Bernard Tapie à l'intérieur. Et on voit évidemment avec vous, Laure Parra, que cette cérémonie va permettre aux supporters de l'OM de rendre un dernier hommage à Bernard Tapie.
Oui, tout à fait, Laurence. Et alors qu'il y avait une ambiance digne d'une grande soirée de football ici dans le Vélodrome, depuis que le corbillard a atteint la pelouse, eh bien, c'est le silence. C'est le silence et les supporters qui sont installés dans la tribune Jean-Brun ont tous l'écharpe de l'Olympique de Marseille, les bras en l'air, ils tendent cette écharpe avec les regards vers le cercueil. L'ambiance est étonnamment, comment dire, elle vous saisit en fait. C'est vraiment particulier ce qui est en train de se passer, c'est émouvant. Et le silence est vraiment pesant. Je chuchote parce que j'ai l'impression que tout le monde se tait, donc c'est compliqué de vous commenter l'image en montant le volume. Et là, ce que vous voyez, eh bien, c'est ce cercueil porté par plusieurs. Eh bien, voyez d'un coup l'applaudissement, les applaudissements, parce que ça y est, le cercueil est porté en direction du cercle central du stade. Je vous laisse écouter.
Et alors que le cercueil continue à nous expliquer lorsque vous voyez.
Voilà, alors que le cercueil s'approche tout doucement du cercle central et qui est installé en fait face à la tribune présidentielle où est présent, je le rappelle, la famille et également les joueurs actuels de l'Olympique de Marseille. À côté de ce cercueil, un portrait de Bernard Tapie. Alors je suis un petit peu loin pour vous décrire exactement quelle est la photo sur ce portrait. Il y a également une sorte de drapeau avec Bernard Tapie, un drapeau en bleu et blanc, évidemment, aux couleurs de l'Olympique de Marseille. Et posé sur le cercueil, eh bien, plusieurs écharpes à l'effigie du club, ainsi qu'un fanion. Et évidemment, la copie de la coupe aux grandes oreilles, celle qui symbolise l'étoile sur le maillot de l'Olympique de Marseille, celle qui symbolise la victoire en coupe de la Ligue des Champions en 93. Au moment où on se parle, l'un des proches de Bernard Tapie qui a accompagné le cercueil est en train de dresser, comme l'avait fait Didier Deschamps, cette coupe aux grandes oreilles, comme aimait l'appeler Bernard Tapie. Et tous dans les tribunes, que ce soit la tribune des présidentielles, que ce soit la tribune à droite et à gauche, eh bien, applaudissent et veulent que ce moment reste à jamais gravé dans leur mémoire, une mémoire qui a été de toute façon à jamais gravée par l'ancien club du président de l'OM.
Merci beaucoup Laure Parra avec Steph Rouquier pour nous avoir fait vivre ce moment en direct, cet hommage et avec ce cercueil, Karim Zerebi qui est désormais sur la pelouse du Vélodrome, avec cette réplique de la coupe pour dire une dernière fois l'amour de Marseille à ce grand patron de club qui a été Bernard Tapie.
Tout à fait, Laurence. Les personnes que nous voyons de dos sont les présidents de clubs de supporters. Il y en a beaucoup à Marseille. Je connais ces visages, puisque ce sont des gens qui sont très engagés, qui drainent des milliers de personnes derrière. Et ils sont là pour rendre un hommage à Bernard Tapie. Dans l'histoire du club, c'est Bernard Tapie qui a donné énormément de responsabilités déléguées au club de supporters pour gérer des abonnements, pour leur donner les moyens de faire des tifos, comme on dit. C'est les grandes banderoles qui sont déployées dans les stades. Voilà, là, les clubs de supporters, ils sont tous la main sur l'épaule des uns et des autres. C'est une photo d'équipe, c'est une photo de famille. Soudés devant le cercueil de Bernard Tapie. C'est la famille olympique de Marseille qui se réunit pour faire hommage à son boss.
On écoute les acclamations du public. Laure Parra, vous êtes toujours avec nous depuis la pelouse du Vélodrome pour cet hommage assez hors norme à Bernard Tapie.
Effectivement, et là, vous, les supporters, hein, ceux qui ont porté le cercueil, les chefs des clubs de supporters, qui font d'ailleurs que les supporters de Marseille ont cette réputation, hein, cette réputation comme étant l'un des meilleurs clubs en termes d'ambiance, en termes d'amour du maillot, en termes d'amour du club, eh bien, sont là, bras dessus, dessous, devant le cercueil de Bernard Tapie. Et évidemment, et c'est un peu logique, Laurence, au moment où on se parle, c'est l'appel aux armes, hein, c'est une des chansons favorites des clubs de supporters, avec cette fierté d'être amoureux de ce club. Certains supporters que j'ai rencontrés avant cet hommage me disaient que Bernard Tapie avait redonné la fierté à ce club. Hein. Vous savez, quand il est arrivé en 86 à Marseille, eh bien, le club marseillais n'était pas vraiment vainqueur, hein, depuis quelques années. Et puis au-delà de cette Coupe d'Europe, de cette Coupe de la Ligue des Champions, eh bien, il a ramené 4 titres de champion de France ainsi qu'un titre de Coupe de France. Donc les Marseillais depuis, eh bien, rêvent qu'un jour à nouveau l'Olympique de Marseille connaisse autant de victoires.
Karim Zerbi, un dernier mot là-dessus.
C'est vrai, ce que dit Laure est tout à fait vrai. Il a marqué l'histoire du club et cette fameuse chanson « Aux armes ». Aux armes marseillais, donc c'est effectivement la fierté de ces supporters d'avoir remporté des victoires sous l'ère Bernard Tapie. Et cette ère, ben, ils en sont nostalgiques, les supporters de l'Olympique de Marseille, parce que depuis, effectivement, il n'y a pas eu autant de trophées. Donc c'est Invalides à lui, Bernard Tapie, le stade Vélodrome. C'est son hommage.
C'est ça, oui, vous avez raison.
C'est le lieu où il se sentait bien, c'est le lieu où il voulait être, donc pour reposer en paix. Je le disais en début de d'émission, il ira se reposer en paix dans le cimetière de Mazargues, qui est à quelques centaines de mètres du stade Vélodrome. Il ne sera pas loin de ses supporters, de cette ville qu'il aimait tant, qu'il a adoptée, lui, le Parisien, de la banlieue, fils d'ouvrier. Il a réussi à se faire adopter parce qu'il avait ce tempérament de rebelle, cette énergie qui collait bien avec Marseille. Et les Marseillais, ben, vous voyez, le football est une religion, c'est un peu leur dieu.
Philippe Juvin avec la musique de Queen, We Are The Champions.
Oui, le mot énergie lui allait bien. Moi, j'ai un souvenir comme ça parmi d'autres. Il m'appelle au téléphone, il était malade et il me dit « je suis très fatigué ». Je lui dis « il avait une maladie qui était évidemment très fatigante et puis des traitements très fatigants sans doute ». Et il me dit « non, mais je suis très fatigué parce que je viens de faire 50 km à vélo ». Et c'était il y a quelques mois. Donc c'était un homme qui ne se laissait jamais abattre. Et on sait que face à la maladie, il a eu une attitude d'un courage exceptionnel et de cette énergie absolument aussi exceptionnelle. Et donc ce vélo, moi, me restera longtemps. C'est 50 km de vélo de quelqu'un qui subissait.
Qui était sous traitement très lourd.
Eh bien non, pour lui c'était normal. Et c'est de cela dont il se plaignait. En réalité, il ne s'en plaignait pas. Il était très heureux de m'expliquer qu'en fait, ça allait très bien.
Et ça peut servir à tous les malades qui se battent contre cette maladie, se battre jusqu'au bout et essayer de voir.
Oui, j'ai souvenir même qu'il parlait à d'autres malades en expliquant, voilà, écoutez, j'espère que ça va aller mieux. Il était aussi à une thérapie pour les autres que pour lui-même.
Mais c'est la France qui gagne, Bernard Tapie. C'est pas la France du Poulidor. Oui. Même si on adore Poulidor, c'est la France qui doit être première. Donc Bernard Hinault, il doit gagner. L'Olympique de Marseille, il doit être champion d'Europe. Donc il faut gagner. Donc c'est la détermination du vainqueur. Donc, c'est le volontarisme, c'est le pragmatisme. On est en prise avec le réel et on va tout faire pour aller chercher la victoire. Donc avec une force, une énergie considérable et cette capacité qu'il avait à retourner parfois les stades. Il rentrait dans le vestiaire, moi les joueurs me le racontaient. Donc c'était une première mi-temps, mi-figue, mi-raisin. Les joueurs ne donnaient pas le meilleur d'eux-mêmes. Quand le boss passait dans le vestiaire, un quart d'heure après, quand ils revenaient sur le terrain, c'était des lions, les Marseillais. Donc, ils étaient capables de manger n'importe qui sur le terrain, sur ce rectangle vert. Mais c'était l'effet tapis. Quand ils passaient, ces mots avaient une résonance. Donc, ils touchaient les cœurs, ils touchaient les esprits, donc ils permettaient de décupler une énergie qui était à son image.
Allez, un dernier mot, commissaire Lebars, sur cette cérémonie et ce personnage hors norme qui est célébré ce soir.
Oh, mais moi, j'ai rien à ajouter parce que je repensais encore au rugby. Vous me direz, je fais une obsession, mais ça m'a fait penser à Bernard Laporte quand il rentre dans un vestiaire. On en a déjà vu des images. Moi, j'ai connu en tant que rugbyman un gars qui s'appelle Daniel Herrero. Il y a des gens comme ça, ils ont quelque chose. Ils sont capables de transformer des deux chevaux en voiture de course, un groupe en une élite. C'est des leaders, voilà, c'est tout. Donc c'est ce qui reste. Et moi, je souhaite à personne de mourir, bien que c'est notre sort à tous. Mais voilà, c'est, on en parlait avec Karim. Il a son hommage au Vélodrome. C'est l'équivalent des Invalides, mais ça correspond à Bernard Tapie. Donc c'est chouette pour lui et sa famille. Et je précise que Bernard Tapie a tellement tout fait et tout réussi qu'il a été commissaire de police pour une fiction.
Ah, pour une fiction, oui, j'allais dire, vous m'apprenez quelque chose.
Il a même fait ça, il a été le commissaire Valence. C'était peut-être pas le chef-d'œuvre des Polars, mais il a aussi fait ça, donc c'est quand même assez étonnant.
Voilà, et on va quitter cette cérémonie au Vélodrome, non pas aux Invalides, avec ses chants, évidemment, des supporters marseillais. Que vous connaissez par cœur, Karim.
Oui, bien sûr, la Coupe d'Europe posée sur son cercueil avec les couleurs bleu et blanche qui incarnent les couleurs du club, les banderoles, les écharpes, et puis c'est vrai que c'est cet hommage qui est à la fois des chants, à la fois des silences, parce qu'on veut honorer la mémoire, mais ils sont là par milliers donc pour rendre hommage à Bernard Tapie au stade Vélodrome, dans cet antre populaire qui est une antre qui recouvre connu aujourd'hui qu'à l'échelle européenne, hein, sans faire offense à personne. Il n'y a pas un public qui égale le public du stade Vélodrome en France et peut-être en Europe. Il faut le dire. Et je ne suis pas partisan quand je dis ça. Je ne suis pas un Marseillais chauvin quand je dis ça.
Pas du tout.
Je peux vous dire que tous les gens que j'ai amenés au stade Vélodrome sont restés bouche bée devant cette ambiance fantastique.
Allez, merci beaucoup Karim pour ce bel hommage à Bernard Tapie, la cérémonie évidemment au Vélodrome. On l'a vécu en direct. Merci à Laure Parra, Stéphanie Rouquet, Régine Delfour, Olivier Gangloff, toutes les équipes de CNews qui étaient déployés sur le terrain et toutes les équipes d'Europe 1 aussi. On va revenir à la sécurité des policiers, c'est un véritable sujet central pour vous, commissaire Lebars. On sort d'un mauvais de la sécurité. Qu'est-ce qui a réellement été obtenu par les policiers pour améliorer leur matériel, pour améliorer la façon dont ils sont déployés sur le terrain dans des zones qui sont de plus en plus compliquées pour eux? Je parle de n'importe quel quartier un peu chaud.
Alors, sur le court terme, personne ne peut le nier, il y a un effort budgétaire gigantesque d'1,5 milliard qui reste à distribuer. On a entendu le message qu'on accompagne. Enfin, moi, je trouve ça évidemment de bon aloi de le mettre sur l'équipement, sur les moyens. Ça, c'est le court terme. Moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est le court terme au ministère de l'Intérieur et la réponse, comme c'est le ministère de l'Urgence, on verra plus tard l'avenir. Ensuite, la phase 2, c'est cette fameuse loi, la LOPCI, qui va être écrite et présentée au Conseil des ministres en janvier. Et c'est la construction de la police de demain. Alors moi, il y a des sujets sur lesquels je suis pas sceptique, mais je demande à voir, parce que j'ai vu auparavant ce que ça donnait. Un des premiers leviers essentiels, c'est celui de la simplification de la procédure pénale. C'est le chantier qui est entre les mains.
La paperasserie qui étouffe tous les policiers.
Dont tout le monde est responsable, le ministre inclus, sans l'accuser lui personnellement. C'est-à-dire qu'à vouloir bien faire, on a toujours mis sur la police des priorités qui s'empilent. Et une priorité, on rend compte, et le fait de rendre compte, ça consomme de l'énergie. On a une police qui est écrabouillée par la technocratie. On n'arrive pas à se débarrasser de ça. Je crois que le constat est partagé. Mais il n'y a pas une mauvaise volonté.
Mais c'est pas ça qui la met en danger sur le terrain non plus.
Bah, c'est si, parce que c'est du personnel qui n'est pas sur le terrain. Avant de vouloir recruter des policiers ou de mieux les répartir, il faut aussi les prendre là où ils sont censés être sur le terrain et trouver les moyens de soit baisser les charges administratives, soit de les donner à des administratifs. Alors la volonté est là. Mais ça, c'est le premier point noir. Le deuxième, je ne le lâcherai jamais. C'est pas du tout une accusation sur l'institution judiciaire. C'est qu'elle est exsangue, l'institution judiciaire. On n'arrête pas de le dire, mais je ne vois aucun programme de recrutement massif de magistrats. C'est très facile pour certains de dire les magistrats sont politiques, prennent des décisions qui ne sont pas les bonnes. Il faudra déjà qu'ils puissent les prendre. Donc les moyens sur la justice et le fait d'aller sur cette chaîne pénale. Le troisième, c'est la simplification procédurale. Il y a de la volonté pour, je dirais, mettre les moyens numériques, mais il n'y a pas que ça. Voilà. On a un code pénal aujourd'hui, un code de procédure pénale. Ce sont des pavés qui servent à caler des tables et que plus personne ne maîtrise et qui ne servent. J'ai rien non plus contre les avocats. Il faut que les mises en cause soient défendues. Mais aujourd'hui, ceux qui font leur métier et qui vivent de cette procédure qui n'existe nulle part ailleurs aussi compliquée, ce sont les avocats. Et donc, ça n'est pas toujours dans l'intérêt des victimes. Moi, je ramène ça. Le débat, pensons aux citoyens et aux victimes avant de toujours vouloir donner des droits aux délinquants.
Raison. Et vous l'avez dit à de nombreuses reprises sur ce plateau. Philippe Juvin, en matière de sécurité et notamment pour doter les policiers de moyens corrects, vous avez, vous aussi, des idées?
Mais tout d'abord, oui, c'est ça. Il faut reprendre l'avantage sur le terrain. Le terrain ne nous appartient pas. Il faut faire en sorte que les voyous ne soient plus en sécurité. Or, ils savent qu'en réalité, ils ne risquent rien. Donc, des moyens pour la police, des moyens pour les juges. Les places de prison, le fait que les policiers ne doivent plus être, comme c'était le cas longtemps, attribués à des tâches qui ne sont pas les leurs, en particulier le maintien de l'ordre. Je pense à cette absurdité qui, heureusement, va prendre fin des procurations dont on les charge avant les élections. Tout ça est absurde. ou de garder une sous-préfecture dans laquelle il ne se passe rien. Mais il y a un sujet également qui est un sujet de volonté. Quelle est l'utilisation de la force que l'on veut faire ? Veut-on reprendre le pouvoir dans des quartiers ? Voilà, c'est là-dessus que je vais juger. Est-ce qu'on a une volonté politique de dire « bah maintenant, c'est fini ». Cette volonté politique, elle n'a pas besoin de moyens. Les peines planchers, ça existait, ça a été aboli. Il faut rétablir les peines planchers. L'expulsion des étrangers qui sont condamnés pour des délits graves. Pourquoi les garde-t-on ? On a 25% des places de prison aujourd'hui qui sont occupées par des étrangers en situation irrégulière ou régulière, condamnés en France. Vous commettez un délit grave, vous partez, on vous expulse. Tous ces éléments ne demandent pas des moyens, ils demandent une volonté. C'est compliqué la volonté, je ne dis pas que tout est facile, mais je ne la vois pas. Moi, je salue comme vous la mise sur la table de moyens. Ça n'avait pas été fait depuis des années, et je crois que le gouvernement fait bien. Mais ça ne suffira pas si derrière, on n'a pas l'impression qu'il y a une volonté, en fait, de terroriser les voyous, vous voyez. Il faut que la peur change de camp.
On va à une petite pause, on se retrouve dans un instant, je vous passe la parole, Céline Pina. Toujours sur ce sujet de la sécurité, sécurité évidemment dans notre pays, et sécurité des policiers aussi. A tout de suite dans Punchline.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Et on se retrouve dans Punchline pour évoquer les questions de sécurité avec le commissaire David Lebars, Karim Zerebi, Philippe Juvin, candidat LR à la présidentielle, et Céline Pina, fondatrice de Vive la République. On va s'intéresser à des témoignages d'habitants de la ville de Pantin. C'est là qu'ont été déplacés les toxicomanes accros au crack qui étaient dans la capitale. On va écouter ces habitants qui disent leur colère. Ils manifestent toutes les semaines, eux aussi. On va écouter l'un d'entre eux qui raconte, qui explique l'insécurité jusque dans son domicile. Écoutez.
Alors bah ici on a les restes des anciennes toilettes des vendeurs de cigarettes à la sauvette. C'est pareil, on a fait sécuriser et condamner la cave parce que ils cachaient leurs cigarettes et bien évidemment ils allaient aussi aux toilettes ici. On a une vitre cassée, mais c'est la quatrième fois cette année qu'elle est cassée. Et la dernière fois c'est donc un vendeur de cigarettes qui s'est éclaté la tête dedans parce qu'apparemment il voulait se suicider. Pareil, on a régulièrement des boîtes aux lettres fracturées, donc voilà, on les enlève, on essaie de réparer le maximum.
Ils sont là, ils se baladent. C'est vrai que la police, il y a un peu de policiers qui encadrent, des fois, je les vois encadrer sur le lieu là-bas, ils sont à la Villette, mais ça suffit pas, quoi. Ils sont, j'ai l'impression, délaissés et voués à eux-mêmes.
Ça se répercute justement sur le chiffre d'affaires. On a beaucoup moins de clients, la boutique elle est totalement vide depuis qu'ils ont lâché ça. Même les passants, ils ont du mal à passer. Regardez, les rues, elles sont vides. Il y a beaucoup plus d'agressions. Les gens ont peur, on va dire.
Voilà pour ces témoignages d'habitants de la zone de Pantin, dans l'Est parisien. Philippe Juvin, on a l'impression que tout est concentré dans en fait, ce problème qui n'est pas réglé depuis des mois et des mois.
Non, mais les gens qui sont là sont des gens qui sont abandonnés. Ce n'est pas qu'ils ont le sentiment d'être abandonnés, comme on dit souvent. Ils sont abandonnés par les pouvoirs publics qui disent « bah oui, finalement, on laisse faire ». La question est évidemment très considérable et très complexe. Il y a une question d'immigration illégale qui nourrit cette affaire. Il y a une question de trafic qu'on laisse prospérer. On voit bien. Mais ce qui est inacceptable, c'est de laisser faire. Moi, je propose désormais que chaque ministre nommé puisse être logé en face d'une situation pareille ou en face d'un centre de shoot. Salle de shoot. Oui, c'est très bien. Une salle de shoot devant le domicile de chaque ministre. Vous allez voir si ça marche. Il y a un rapport qui a été fait par l'INSERM, ahurissant, sur les salles de shoot, qui a été publié au printemps dernier, qui montre, qui essaye de démontrer que la salle de shoot, c'est formidable. Ça a des effets positifs sur la santé, sur la sécurité, etc. En réalité, moi, je me le suis lu, 120 pages, ou 100, enfin, très, très long, je ne sais plus. C'est de la bouillie intellectuelle. Il n'y a rien dedans. En réalité, on a un niveau de tolérance à l'égard de la toxicomanie qui est folle. C'est une question médicale. Il faut soigner ces gens, il faut les sortir, et il faut protéger tous ceux qui en sont les victimes. Moi, je ne laisserai pas faire un truc comme ça. Enfin, dans ma commune, il est hors de question que quelque chose arrive comme ça. Qu'est-ce qui se passe si quelque chose commence dans ma commune ? Je le soigne dès le premier. Je ne laisse pas prospérer les choses. Le sujet est là, c'est qu'on laisse prospérer, et après, c'est trop tard.
Mais c'est aussi un sujet de sécurité, commissaire Lebars. Les policiers, là, sont impuissants. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils verbalisent même plus ? Parce que ce n'est pas la peine.
Non, mais je vais être très clair avec vous. Il y a deux angles d'attaque, l'angle des dealers et l'angle des toxicomanes. Sur le crack, parce que c'est vraiment un sujet spécifique, et c'est un sujet de village. C'est une toute petite communauté. C'est là où, d'ailleurs, on est en échec total, c'est de ne pas être capable de régler un problème de 500 personnes. Sur le problème des dealers, il faut dire les choses très clairement, ceux qui fabriquent le crack sont, 90% d'entre eux, des gens qu'on appelle des modous, qui suivent les consommateurs de crack. C'est facile hein, de cuisiner du crack. Vous trouvez un petit local, vous achetez un réchaud, vous prenez de la coke, vous prenez de l'ammoniac, vous fabriquez du crack. Et vous vous adressez à une population qui est complètement accro, accoutumée et qui a très peu de moyens, raison pour laquelle d'ailleurs ils se sont mis sur le crack. C'était une drogue qui avait quand même été fabriquée à destination de ces populations défavorisées. Si on ne s'en prend pas à ces dealers-là correctement, on n'arrivera pas à éradiquer ces dealers-là.
Et là, c'est le travail
ils
des policiers.
Ils cumulent deux choses. Mmh. Oui, c'est bien sûr. Bien c'est sûr. Notre responsabilité. Ils sont dealers et ils sont étrangers en dissimulant leurs identités pour la plupart d'entre eux. La réalité, c'est que ce sont des Modous, ce sont des Sénégalais. Ils sont sur des fausses identités. Ils prennent des identités de pays qui sont soi-disant en guerre pour ne pas se faire expulser. Et on a une incapacité à la machine judiciaire et policière à faire les procédures correctement. Donc là, on a un effort et une part de responsabilité énorme. Sur les consommateurs. Moi, je maintiens que c'est un problème de santé publique en premier.
Je suis d'accord.
On est en échec parce que ça n'est pas un problème de sécurité dans le temps 1, c'est un problème de santé publique. Il faut, dans un premier temps, par la force, les contraindre à une hospitalisation. Donc, il faut que le législateur adapte un dispositif qui est intermédiaire entre l'hospitalisation d'office et le placement en infirmerie psychiatrique, qui est un dispositif parisien. Il faut, pourquoi les enfermer ? Parce qu'ils sont dangereux pour eux-mêmes et pour autrui, les deux. Pour eux-mêmes, parce qu'ils sont dans un état incroyablement délabré, les malheureux. Deuxièmement, pour autrui, parce que comme ils sont en manque, ils peuvent dégrader, agresser, voler pour acheter leur de quoi acheter leur crack. J'ai vu pire, j'ai vu des femmes se prostituer pour avoir une dose de crack. Moi, j'avais des gens qui consommaient du crack sur le territoire où j'étais commissaire. Je crois que ceux qui parlent du crack devraient, avant d'en parler, voir sur le terrain ce que c'est. Il faut donc les contraindre à une hospitalisation, il faut les dispatcher dans des hôpitaux et ne surtout pas les mettre dans une seule et même structure, pour ensuite leur donner la chance, une fois qu'ils reviennent à la raison, que les médecins prennent en charge l'aspect social, réinsertion, et qu'ils ne se retrouvent pas dans ce phénomène de village. Voilà ce qu'il faut faire.
Céline Pina, c'est un phénomène qui a des facettes absolument multiples.
Oui, et dont on ne voit pas réellement comment est-ce qu'on pourra le résoudre, en tout cas à court terme, parce que je rappelle l'état des hôpitaux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant le Covid, on avait déjà, je crois que c'était 100 000 ou plus de 100 000 hospitaliers qui avaient démissionné de leur fonction administrative pour parler de la grande difficulté de l'hôpital. Les urgences étaient en grève, le Covid est arrivé par-dessus, il n'y a pas eu tant de recrutement que ça, les hôpitaux sont toujours étranglés, ont toujours un manque de financement réel. Comment voulez-vous qu'ils absorbent? Là, on parle quand même de milliers de personnes, alors qu'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à gérer le tout venant. Je ne vois pas comment ils peuvent gérer ces gens-là, qui en plus demandent quelque chose entre l'hospitalisation et quand même, ils sont dangereux, ils perdent vite. Donc, on est quand même entre l'hospitalisation et la prison. On n'a pas vraiment de lieu fermé pour cela. On a une vraie difficulté de réponse concrète parce que idéologiquement, on a quand même pendant tout un temps estimé que finalement quand la police intervenait, c'était un signe d'échec. On n'assumait pas le fait que maintenir l'ordre public, c'est un devoir de l'État, que la société est essentielle. Et on a laissé aussi énormément de discours sur les violences policières qui font que même quand les policiers interviennent de façon légitime sur une population très dure et extrêmement brutale et donc il faudra à un moment donné mettre en œuvre des moyens en utilisant la violence, vous pouvez être sûr que ça va être filmé, que vous allez avoir le énième scandale autour des violences policières. Donc il y a aussi le problème d'une société politique qui parfois ne défend pas ses forces de l'ordre au prétexte qu'elle voudrait s'acheter une vertu qu'elle n'a pas. Non, on a plutôt une police qui est bien, mais les accusations de violences policières et tout ce que cette police a subi fait aussi qu'il y a une tension dans la société que la police doit supporter et qui n'est pas viable.
Philippe Juvin et après commissaire Renard.
Donc, très, très clairement, c'est la situation évidente où il faut reprendre la main. On reprend la main en matière policière, vous l'avez dit. Il y a des trafics à démanteler. C'est le travail de la police et de la justice. Il faut leur donner les moyens. Deuxièmement, il y a la question de santé qui est fondamentale. Ces gens-là sont malades. Donc, il faut les traiter. Comment les traite-t-on ? On les traite en les hospitalisant, en les détoxifiant. Mais il faut avoir en tête une chose, c'est qu'on ne devienne pas du jour au lendemain, on ne passe pas de zéro au crack. Il y a une progression dans la maladie. Or, un des grands impensés du service médical français, du système de soins en France, c'est la santé mentale. On prend très mal en charge la santé mentale. Pas suffisamment de psychiatres, il n'y a plus d'infirmiers psychiatriques. Moi, je propose qu'il faut regarder ce qui s'est fait à l'étranger. Par exemple, à Seattle, ils ont observé que la majorité des maladies psychiatriques, mentales, venaient en réalité non pas à l'hôpital, mais voir le médecin généraliste. On n'a pas aussi suffisamment de médecins généralistes, il faut en former. Mais il y a peut-être une solution intermédiaire pour gagner du temps, c'est qu'on a des infirmiers en France qui sont formés en 3 ans. On pourrait tout à fait décider d'inventer de nouveaux métiers en formant des infirmiers en 1 an supplémentaire à la prise en charge de pathologies extrêmement précises. Par exemple, la maladie mentale, par exemple la toxicomanie. Et là, avec ça, on n'a pas besoin d'attendre 10 ans ou 15 ans la formation de psychiatres qui vont mettre beaucoup de temps à arriver, mais on peut facilement, rapidement former de nombreux infirmiers spécialisés dans la prise en charge de la toxicomanie, et ces gens, les mettre à disposition des médecins généralistes pour pouvoir suivre tous ces patients qui sont dans la nature. Parce qu'encore une fois, on ne devient pas utilisateur de crack du jour au lendemain. On est passé par toutes les étapes de la toxicomanie, de l'alcool, en parlant sans parler de cannabis et autres.
Commissaire Le Bars, sur ce que disait Céline Pina, ce poids qui pèse sur les épaules des policiers.
Oui, mais si on donne à la police la mission d'utiliser la violence légitime, à la limite, peu importe que certains la contestent, du moment qu'on l'utilise à des fins de remettre à ceux dont c'est le métier de traiter cette population, et non pas pour la déplacer. Il n'y aura pas de contestation. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est qu'on demande à la police de régler tous les maux de la société. Donc qu'est-ce qu'elle fait la police depuis 20 ans? Et j'en suis un des acteurs navrés. J'ai été en Seine-Saint-Denis, on me faisait faire des opérations, on déplaçait ces populations en faisant ce qu'on appelle des opérations d'ordre public, on interpelle ceux qu'on peut interpeller, on dispatche, on occupe le terrain. Tout ça, ça s'appelle de l'essuie-glace, on renvoie chez le voisin, ça n'a aucun intérêt et ça nous coûte en termes d'image, parce que les gens se disent la police n'est pas efficace, et c'est encore sur nous que ça tombe. Il faut donner à la police la juste mission d'utiliser la force légitime si besoin pour aller les mettre là où il faut, et là où il faut, c'est des structures hospitalières, je vous rejoins, qui n'existent pas, ou en tout cas pas en nombre suffisant pour qu'ils puissent, dans un premier temps, être contraints. C'est pas totalement idiot de dire ça, puisqu'on le fait pour la maladie mentale, et on est d'ailleurs pas loin de la maladie mentale, parce que de toute façon, les symptômes sont les mêmes. Je crois même qu'il y a des décisions de justice où des gens ont été exonérés pour des raisons de maladie mentale tout en étant sous l'ordre.
Abolition du discernement.
Ce sujet-là est devenu, je dirais, presque totalement hybride, parce que ça, quand ça arrange les uns, ils s'en servent, quand ça arrange pas, donc voilà, il faut reposer ça sur la table, et quand les structures médicales auront les moyens d'accueillir ces gens-là, quand ils vont commencer à sortir de toxicomanie, là, ils ont toutes les chances de s'en sortir avec les clés qu'on peut leur donner. Mais si on les déplace sur la voie publique, moi j'ai connu la colline du crack, ça a arrangé tous les élus, je vais vous dire pourquoi. Parce que comme ils étaient sur un terre-plein entre l'autoroute A1, le périph' et les boulevards extérieurs, bon ben on les voit pas, ils sont bien là. Sauf qu'ils étaient 50 il y a 10 ans. Une cinquantaine. Ils sont 500 aujourd'hui. Donc l'échec est majeur. Et il y a un autre échec aussi, je le dénonce, et c'est pas une accusation à charge, c'est que toutes les associations, quand bien même elles ont de la bonne volonté, qui les nourrissent, qui les protègent, qui essayent de leur donner leurs droits, en fait, fabriquent ce phénomène de village. C'est pour ça qu'ils restent sans arrêt ensemble et qu'on n'arrive pas à régler ce problème d'ordre public et de santé publique. Donc il faut que chacun comprenne tout ça, c'est dans leur intérêt. Sinon, on va avoir des gens qui vont mourir socialement, médicalement, qui vont faire des overdoses et qui vont continuer d'agresser le voisinage parce qu'ils sont en état de manque. Ils ne le font même pas par conscience, ils le font par subsistance.
Karim Zeribi.
Moi, je suis assez effaré de constater l'image que l'on renvoie face à ce type de phénomène, à la fois précisément là sur la question du crack, mais plus largement sur les questions de violence. J'avais dit dire partout d'ailleurs, parce que faut pas imaginer que ça se cantonne simplement à quelques quartiers ou à la banlieue. Vous avez des violences physiques, des sacs à l'arraché, des arrachages de montres aujourd'hui, donc très fréquents partout. Et on renvoie l'image d'une impuissance de nos institutions républicaines. Moi, je suis effaré de voir ce sentiment que l'on a d'impuissance. Et si on a un sentiment d'impuissance, c'est parce que le sujet n'est pas traité. En fait, on est toujours en réaction. On n'est pas dans une approche où on se dit bon voilà, on va faire un état des lieux, mais cet état des lieux, je suis navré de le dire, hein, donc et sans être dans une approche partisane, on peut pas le faire à 7 mois d'une élection présidentielle.
C'est un peu
donc
tard.
Cet état des lieux, on le fait en début de mandat. Donc et en début de mandat, normalement, quand on prend des responsabilités, on pose les jalons d'une politique régalienne et on rappelle effectivement les règles de la République pour tous et partout. Et ça, on le fait avec les forces de police nationales, gendarmerie, ce qu'on appelle la sécurité intérieure, et on le fait avec la justice, qui doit, à un moment donné, être le pendant du travail des policiers. Quand les policiers font bien leur travail, à un moment donné, il y a une décision qui doit statuée par la police, la justice. Or, aujourd'hui, on a le sentiment qu'à la fois, nos fonctionnaires de police sont très exposés, donc ils colmatent des brèches. Il n'arrive pas à résoudre le problème. Il semble profond, il semble multiple, il semble disséminé sur le territoire national. Et donc, on les envoie comme ça pour colmater les mots MEX de la société. Et de l'autre côté, la justice semble débordée, donc dans l'incapacité de traiter. Alors, on fait des rappels à la loi.
Normalement, il y en a plus des rappels à la loi. Mais bon.
Mais on l'appelle autrement.
Stage de citoyenneté. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a inventé là?
On l'appelle autrement. Rassurez-vous, on aura quand même toujours quelques petites injonctions en disant c'est pas bien ce que tu as fait. Attention à la prochaine fois. On va l'appeler autrement. On a les tiges qui ne sont pas effectuées. On a des peines, petites peines. On dit ben non, les petites peines. On ne peut pas, on met un bracelet. Donc, en fait, si vous voulez, on ne donne pas le sentiment que la sanction tombe, alors qu'elle a une vertu éducative, pédagogique, donc pour dire attention, la République est là et elle est garante effectivement du vivre ensemble. Et ça ne marche pas. Et moi, je vais vous dire, je terminerai en disant que quand on a vu le petit reportage sur le crack, là où je suis en désaccord profond avec certains qui aujourd'hui dans l'actualité veulent régler le problème avec des déterminismes d'origine, machin et tout, les victimes sont de toutes les origines. Hein. Les victimes sont de toutes les origines.
C'est-à-dire les toxicomanes ou les habitants?
Non,
parce
qu'on a entendu sur le crack, là, les habitants.
Vous avez des
Français d'origine maghrébine.
C'est ceux qui habitent dans les quartiers les plus défavorisés.
Oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est contre la délinquance qu'il faut se battre.
Il nous reste très peu de temps. Céline Pina et un mot de Philippe Juvin.
Ça fait 20 ans qu'on le fait. C'est-à-dire, moi, j'étais déjà, je travaillais dans les villes, qu'on avait déjà des délinquants qui avaient 20, 25 inscriptions à leur casier judiciaire, dont des actes de violence contre les personnes. La réalité, c'est que le constat, on le connaît parfaitement. Il faudrait investir pour pouvoir répondre à ce problème-là. Il y a des psychiatres qui ont écrit des livres entiers pour expliquer que si la sanction ne tombe pas tout de suite, ensuite c'est très compliqué à rattraper. On ne les écoute pas et on ne les écoute toujours pas. Alors on ne va pas renvoyer ça à la énième élection présidentielle.
Un dernier mot, Philippe Juvin.
Non, mais d'abord, il n'y a pas besoin de moyens pour agir tout de suite. Pardon. On remplace tous les rappels à la loi par des amendes. Premièrement, ça ne coûte rien, ça me rapporte même de l'argent.
Ça rapporte, oui, normalement.
Deuxièmement, on saisit la voiture qui fait du bruit et le mariage bruyant qui embête toute la rue. C'est comme ça qu'on agit. Des petites peines, on envoie les gens 2 ou 3 jours en prison. Je crois qu'il faut comprendre que ce que nous croyons être de l'éducation est vécu comme de la faiblesse. Pendant longtemps, on a dit qu'il fallait comprendre, expliquer, excuser. Soit, parfois c'est nécessaire, mais en fait ça c'est vécu par le méchant garçon en face comme en réalité ils sont faibles et il ne m'arrivera jamais rien. Donc ne croyez pas un instant que les rappels à la loi seront supprimés, il y aura un autre nom, moi je propose effectivement de les supprimer mais de les remplacer par des peines d'amende.
Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à cette émission Punchline. Merci Philippe Juvin, Céline Pina, merci. Commissaire Lebars, toujours le bienvenu dans notre émission, et Karim Zerebi de même. Dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info, et moi je vous retrouve sur Europe 1 pour Punchline. À tout de suite sur nos 2 antennes.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 19h sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, dans un instant la suite des débats de Punchline, mais tout de suite c'est le journal avec Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Marseille avec le boss, c'était la banderole déployée au Vélodrome où des milliers de supporters sont rassemblés toujours pour rendre hommage à Bernard Tapie. Nous serons à Marseille dans un instant.
Le secret de la confession est-il vraiment plus fort que les lois de la République? Sûrement pas, dit-on au gouvernement. Gérald Darmanin invite le président de la conférence des évêques, Mgr Moulin-Beaufort, à venir s'expliquer. Nouveau témoignage poignant au procès des attentats du 13 novembre. Pierre Sylvain et sa compagne étaient au Bataclan. Ils ont tous les deux été visés à la tête, mais ils ont survécu. Et puis le foot Belgique-France à 20h45 à Turin, demi-finale de la Ligue des Nations entre cousins. Nous serons en direct sur place avec Cyril de la Morinerie.
Et puis un mot de la tendance météo avec vous, Marlène Deray. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. C'est parti pour 3 belles journées, mais il va falloir parfois composer avec des nuages le matin. Rendez-vous à la fin du journal pour une météo complète.
Europe 1.
Une immense marée blanche et bleue cet après-midi au stade Vélodrome. Des milliers de supporters de l'OM saluent la mémoire de Bernard Tapie.
Oui, un hommage qui a commencé il y a moins d'une heure. Stéphane Burgat, racontez-nous comment ça se passe.
Eh bien écoutez, la partie basse de la tribune Jean-Bouin a été remplie de supporters, environ 4000 personnes pour un vacarme presque digne d'un soir de match. Sur les écrans télé du Vélodrome, c'est flashback 1993 avec la finale européenne face au Milan. C'est le but de Basile Boli, les images du président olympien Tapie en larmes au coup de sifflet final en présence de la famille justement de Bernard Tapie actuellement et de l'effectif actuel de l'Olympique de Marseille sur la pelouse. Eh bien une couronne mortuaire et plusieurs gerbes de fleurs blanches et le silence qui se fait quand le convoi funéraire pénètre sur le terrain. Seules les écharpes bleues et blanches du club sont brandies fièrement. Le cercueil de Bernard Tapie est porté avec un cortège de représentants de groupes de supporters déposés au centre de la pelouse alors que retentit la musique traditionnelle. On l'entend des avant-matchs de l'OM, le jump de Van Halen, les membres du cortège qui embrassent alors le cercueil sur lequel est déposée une réplique dorée de la coupe au grand oreilles. Et au milieu de ces supporters en tribune, on peut voir des fumigènes et puis surtout un portrait dessiné de Bernard Tapie avec cette légende, notre boss. Et voilà cette dernière visite du boss au Vélodrome qui vient de prendre fin à l'instant sous l'air de We Are the Champions, joué sobrement au violon et les applaudissements nourris des supporters qui viennent de vivre un moment intense et émouvant.
Stéphane Burgat en direct du Stade Vélodrome à Marseille. Donc vous le disiez, de très nombreux supporters dans la tribune Jean Bouin, pleine à craquer, mais aussi des supportrices comme Pascal.
Écoutez, Monsieur Tapie, c'est un homme multifacette. Il nous a donné une étoile. Regardez le monde qui vient le remercier.
Tapie !
Écoutez, écoutez ! Tapie ! Un hommage Tapie ! Vibrant. Parce que Tapie, pour nous, ça aurait été le maire de Marseille. Voilà la place qu'il aurait fallu qu'il ait. Il est mort, mais ici, c'est la fête. Vous avez vu la fête qu'on lui fait ? C'est merveilleux, cet unisson. Il y a tout le monde, tous les âges. On est là pour lui, on est là pour sa famille. On est là parce qu'il a décidé d'être enterré ici. C'est le premier des Marseillais d'adoption qui adore Marseille. Et nous, on l'adore. On est là pour lui. Il a bercé toutes nos années, toutes nos belles années. Il faut juste écouter. Et on ne voulait pas louper ce rendez-vous. On voulait le remercier de cette étoile de 93 et des larmes de Boli et de tout. Voilà, merci.
L'émotion d'une supportrice marseillaise au micro Europe 1 de Frédéric Michel. Demain sera le temps des obsèques, messe à 11h en la cathédrale de la Major. Bernard Tapie sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues dans les quartiers sud de Marseille.
On vient de l'apprendre, une triste nouvelle, le décès d'Étienne Moujotte, un grand monsieur de la presse. Il avait 80 ans.
Oui, il avait été le numéro 2 de TF1 pendant 20 ans, entre 1987 et 2007, puis directeur des rédactions du Figaro. Il venait de publier son autobiographie intitulée « Pouvoir » au pluriel. Caroline Baudry vient de joindre Charles Villeneuve, grande voix d'Europe 1.
Étienne Moujotte, c'est 60 ans de l'histoire des médias, aussi bien de la radio que de la télévision. Ce qui le guidait d'abord avant tout et qui faisait la différence par rapport à tous les autres directeurs généraux des programmes, c'était son bon sens et son sens aigu de l'actualité politique, qu'elle soit française ou qu'elle soit internationale. C'était le prototype même d'un journaliste avec un flair exceptionnel et surtout une mise, si vous voulez, aussi bien en page, puisqu'il a été aussi le directeur général du Figaro, il a touché à toutes les formes d'information avec succès, chaque fois avec succès. Et nous avons été, pour une large part, influencés par lui et dans notre métier et même sur le plan de la vie tout court. C'est donc toute une histoire qui disparaît avec lui et surtout une histoire à succès.
Voilà, c'est toute une histoire qui disparaît. L'ancien directeur de l'information d'Europe 1, Charles Villeneuve, qui rendait hommage à Étienne Moujotte, Information Europe 1. Il est décédé à l'âge de 81 ans.
C'est une petite phrase qui passe mal, celle du président de la Conférence des évêques. Selon Monseigneur de Moulin-Beaufort, le secret de la confession est plus fort que les lois de la République.
Oui, ça passe mal. En effet, après les terribles révélations de la commission Sauvé sur la pédocriminalité au sein de l'Église, résultat, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur chargé des cultes, l'invite en début de semaine prochaine pour lui demander de s'expliquer sur ses propos. Céline Géraud, vous êtes chef du service société d'Europe 1. Cette invitation ou même convocation, ça veut dire que Gérald Darmanin veut remettre l'Église face à ses responsabilités.
Oui, le ministre de l'Intérieur l'a même appelé directement pour lui demander de venir mardi en début d'après-midi pour s'expliquer, nous dit son entourage. L'un de ses conseillers ajoute « Les propos d'Éric Moulin-Beaufort ont provoqué un certain émoi. À un moment, il faut qu'il précise sa pensée. On ne peut laisser croire que la justice soit entravée. » Dans ses recommandations, Jean-Marc Sauvé demande que les autorités de l'Église formulent un message clair aux confesseurs et aux fidèles. Jamais le secret de la confession ne doit déroger à l'obligation prévue par le Code pénal de signaler aux autorités judiciaires les cas de violences sexuelles. Dans un communiqué publié il y a une heure, le président de la Conférence des évêques de France défend à nouveau le secret de la confession. Un secret professionnel que la République a toujours, selon lui, respecté et qui n'est pas, pour l'évêque, contraire au droit pénal français.
Merci Céline Géraud.
Et puis ceux qui imaginaient la fin du pass sanitaire se trompaient. Il est maintenu jusqu'au mois prochain, Hélène.
Oui, décision annoncée tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres par le porte-parole Gabriel Attal. On l'écoute.
L'heure de lever toutes les mesures, toutes les contraintes n'est pas venue. Dans près d'une trentaine de départements, l'épidémie ne recule plus. Nous sommes tombés à un niveau très bas, mais ne recule plus, voire repart très légèrement à la hausse. Notre vigilance doit rester totale. Nous savons que le virus aime l'hiver et que le froid arrive. S'agissant du pass sanitaire, vous le savez, nous avons demandé un avis au Conseil scientifique qui nous appelle à une certaine prudence. Si adaptation du pass il devait y avoir, elle ne saurait donc être envisagée avant le 15 novembre.
Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, le pass sanitaire maintenu donc au moins jusqu'au 15 novembre. La troisième dose de vaccin est désormais ouverte à tous les soignants, comme le préconisait la Haute Autorité de Santé. Et puis, les tests deviennent payants le 15 octobre, vous le savez, mais on connaît les prix. 44 euros le PCR en laboratoire, 25 euros l'antigénique en pharmacie.
Le procès des attentats du 13 novembre se poursuit avec la suite des auditions des rescapés du Bataclan.
Et à la barre aujourd'hui des survivants qui non seulement ont vécu la terreur de cette soirée, mais aussi ont été très grièvement blessés. Une double épreuve vécue par Pierre Sylvain et sa compagne. Témoignage poignant auquel vous avez assisté, Gladys Laffitte.
Ah oui, cet homme de 54 ans, veste et chemise noire, grosse bague en argent au doigt, a raconté comment il a d'abord échappé au déluge de balles en plongeant dans la Régisson avec sa compagne pour la protéger grâce à ses réflexes militaires. Mais un tireur s'approche, exécute des gens au sol. Il a regardé dans notre direction, j'ai vu une gerbe de sang sur la tête d'Hélène et là j'ai pris une balle. Elle me dit qu'elle est touchée, c'était un trou noir, elle n'avait plus de nez, son œil droit avait explosé. Pourtant ils sont conscients et l'adrénaline pousse Pierre Sylvain à les sortir de là à tout prix. On est resté 12 minutes sous le feu, c'était l'enfer, dit-il. Ils apprennent plus tard qu'ils ont chacun été visés à la tête, chacun atteint par une balle qui a transpercé la joue pour Pierre Sylvain et la tempe pour Hélène. Elle subit 14 opérations en tout. Ils sont soignés ensemble à l'hôpital et décident de renouer très vite avec la vie. Aussi grâce à des petits miracles médicaux, dit Pierre Sylvain. Il reste des opérations, mais aujourd'hui, Hélène a enfin retrouvé un visage et lui sourit enfin à la barre.
Gladys Laffitte à la cour d'assises spéciale de Paris pour Europe 1.
On fait une petite pause et dans un instant, on parlera de Marine Le Pen, gênée aux entournures par la possible candidature d'Éric Zemmour. A tout de suite dans Punchline sur Europe 1.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans le journal de 19h avec Hélène Zélani. Marine Le Pen à la manœuvre pour tenter de contrer Éric Zemmour qui désormais la dépasse dans les sondages.
Oui, la présidente du Rassemblement National a testé sa popularité aujourd'hui en Auvergne, au sommet de l'élevage près de Clermont-Ferrand. Pour elle, entre l'original et la copie, autant choisir l'original, c'est-à-dire elle.
Ce qu'on doit aux Français, nous autres candidats à la présidentielle, c'est de leur présenter un projet pour assurer leur sécurité, leur protection, leur liberté. Donc c'est ce à quoi je m'attelle en ce qui me concerne. Et j'attends que chacun maintenant soit candidat et avance véritablement des propositions et sorte du constat. Pour l'instant, je vois pas la plus-value qu'Éric Zemmour apporte en matière d'immigration et d'insécurité, qui sont les deux seuls sujets sur lesquels il s'exprime. Je ne vois pas de plus-value par rapport au projet très construit qui est le nôtre.
Marine Le Pen ne voit donc pas la plus-value d'Éric Zemmour face à son propre projet. Louis Dragnel, la dirigeante du RN, fait mine de ne pas subir, mais en réalité, elle est vraiment affectée par la séquence actuelle.
C'est exactement ça. Entre les saillies d'Éric Zemmour qui dit qu'elle est sûre de perdre et le sondage publié hier qui la disqualifie au deuxième tour de la présidentielle, en ce moment, c'est très dur pour Marine Le Pen. Mais en allant au contact des Français aujourd'hui, elle veut montrer physiquement qu'elle n'est pas atteinte et qu'elle est réellement habitée par le calme des vieilles troupes, comme elle le répète souvent. Ce qui est intéressant maintenant, c'est presque systématique, Marine Le Pen relaye qu'on ne peut pas la comparer à Éric Zemmour puisque elle est candidate et lui ne l'est pas, en tout cas pas pour le moment. Et puis elle met en avant son expérience pour mieux souligner que le journaliste n'en a pas, un argument à double tranchant puisque Éric Zemmour en profite justement pour rappeler entre les lignes qu'elle est là depuis trop longtemps et qu'elle a fait son temps. Pour terminer, Marine Le Pen insiste sur le fait que l'élection présidentielle n'a pas lieu demain, ni même après-demain, mais dans 200 jours, ce en quoi elle n'a pas tout à fait tort. Un argument aussi qui est très relayé par l'entourage d'Emmanuel Macron. Preuve, s'il en fallait, que Macron comme Le Pen ont plus que jamais cette volonté commune de s'affronter au deuxième tour de la présidentielle.
Merci Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Les pensions complémentaires du privé vont augmenter de 1% en novembre, pas plus, c'est 1,5 point de moins que l'inflation. Ça concerne les anciens salariés de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et des services.
Les sages-femmes en colère, elles sont descendues dans la rue cet après-midi à Paris.
Une profession qui s'estime méprisée, oubliée, elle demande plus d'effectifs et de meilleurs salaires.
On n'a plus le temps de s'occuper des patientes, on enchaîne les accouchements, on leur demande d'arrêter de pousser parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper d'elles.
Comment voulez-vous qu'une jeune sage-femme qui a envie d'y aller et à qui on va dire « alors tu vas faire les nuits,
les week-ends, les jours fériés. Tu passeras pas Noël chez toi. Et si tu passes Noël chez toi, tu passeras pas Nouvel An. Toute sa vie, c'est comme ça.
14 ans d'ancienneté, je fais des jours, des nuits, des week-ends, des fériés. Et au mois de septembre, j'ai gagné 2200 euros.
On attend déjà d'être reconnu médical et qu'on ait un statut en tant que tel, que ça puisse être reconnu dans les établissements.
Des sages-femmes en colère au micro d'Arthur Pereira et Harold Caron.
On passe au football. Les grandes retrouvailles entre la France et la Belgique, c'est ce soir à Turin.
Oui, les Bleus vainqueurs des Belges au Mondial 2018 disputent la demi-finale de Ligue des Nations. Cyril de la Morinerie, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Italie. Les joueurs français viennent de quitter leur hôtel pour rejoindre le Juventus Stadium.
Oui, belle ambiance effectivement au départ de ce bus de l'équipe de France. 3000 supporters français ont fait le déplacement dans la ville du Piémont. L'affiche est vraie, il est vrai, magnifique. Un vrai test pour ces Bleus en souffrance après leur élimination prématurée à l'Euro. Alors il y a 3 ans, les Bleus, vous en souvenez sans doute, s'étaient imposés 1-0 grâce à un but de Samuel Umtiti en demi-finale de la Coupe du Monde. Et bien ce soir, Thibaut espère plus de buts et de spectacles.
Ça va être un match point beaucoup plus ouvert qu'en 2018. Puis nous, devant, on a 3 flèches. Il ne faut pas oublier que Benzema, quand il revient en équipe de France, il a très peu de matchs derrière pour s'intégrer avec les joueurs. Là, ça sera peut-être un peu plus fluide et il y aura des occasions des deux côtés. Ça va être un beau match.
Alors cet après-midi, dans les rues ensoleillées de Turin, sous les fameuses arcades de la ville, attablés autour d'un café serré ou d'une focaccia, les supporters français et belges ont profité des charmes de cette magnifique ville. Une rivalité saine, en tout cas, entre ces supporters qui se respectent, précise Marc au maillot noir, rouge et or, les couleurs de la Belgique.
C'est juste un match entre voisins, que le meilleur gagne.
Bon, De Bruyne ou Mbappé, c'est qui le plus fort?
De Bruyne, évidemment. Kevin. Kevin, il voit plus vite que l'éclair.
Et voilà, on a entendu dans les rues à Marseille, mais aussi la Brabançonne que vous entendez actuellement. Le match a déjà commencé.
Cyril de la Morinerie en direct de Turin pour Europe 1 et Belgique-France. Le coup d'envoi, c'est à 20h45.
Un mot de la météo avec vous, Marlène Duret. Vous nous promettez un temps globalement ensoleillé demain ?
Et oui, grâce aux conditions anticycloniques, l'anticyclone d'automne favorise aussi, il faut le dire, des matinées fraîches et des après-midi doux, la grande amplitude des températures, des matinées fraîches quand rien ne fait obstacle en fait à la chaleur qui s'échappe dans l'atmosphère, quand il n'y a pas de couverture nuageuse. Résultat, les températures baissent, l'humidité augmente et ça favorise les brouillards. Et en automne, on le sait, le soleil n'est plus aussi puissant. Il faut patienter quelques heures pour que tout cela se dissipe. Et donc demain matin, on en trouvera des grisailles très compactes, parfois accompagnées de brouillards entre le Limousin, l'Auvergne, le Lyonnais et la Haute-Savoie. Visibilité réduite également le long de la Garonne, localement en Poitou-Charentes, en région centre, en Île-de-France. On n'oublie pas les régions bordant la Manche. Et puis le soleil finira par s'imposer évidemment dans toutes ces régions. Sur le reste du pays, il brillera dès l'aube. Seule la Corse fera figure d'exception, influencée par la météo italienne, donc beaucoup de nuages et quelques averses. Les thermomètres, après une nuit fraîche, grimperont jusqu'à 14 au Puy-en-Velay en Haute-Loire. Il fera en général 17 à 20 degrés avec 19 à Paris. Ça monte jusqu'à 21-22 près des côtes atlantiques et jusqu'à 25 en bordure méditerranéenne.
Merci beaucoup Marlène Duret pour cette météo. On se termine sur cette information, on termine ce journal par ce décès d'Étienne Moujotte à l'âge de 81 ans, patron de presse. Il avait fait les grandes heures d'Europe 1, les auditeurs d'Europe 1 s'en souviennent, de TF1 avec Patrick Lelay, il était l'un des artisans du succès de TF1, Le Figaro, Télé Séjour, Valeurs Actuelles, hommage donc à ce grand homme de presse. Merci Alain Zelani, on se retrouve demain à 19h.
À demain.
À demain. Et nous on se retrouve dans un instant dans Punchline, à tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.
Et dans Punchline ce soir pour débattre de l'actualité, nous sommes avec Isabelle Saporta. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Éditrice. Nous sommes avec Louis de Ragnel qui était là il y a quelques instants, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir à nouveau.
Bonsoir Laurence.
Alexandre Devecchio est resté. Rédactrice en chef.
Je sais qu'on parle des trois
jours. Figaro. Là, tout de suite du mauvais esprit. Louis de... Et nous sommes avec Louis Haussalter, journaliste à Marianne. Bonsoir.
Bonsoir Laurence.
Mon cher Louis de Louis ce soir sur le plateau. On va commencer à aller par notre petit carnet de campagne avec Victor Chabert. Vous savez, c'est notre condensé de l'actualité politique du jour. Victor, on commence par cette percée, bien sûr, d'Éric Zemmour qui est en train de secouer l'échiquier politique à droite.
Oui, Laurence, on peut dire que c'est même un choc pour la droite et l'extrême droite, surtout qu'Éric Zemmour en remet une couche. Écoutez ce qu'il disait hier après une séance de dédicace.
Je suis le candidat, oui, de la droite. Je suis le candidat de ce qu'on appelait avant le RPR. Voilà, pour les plus jeunes, ça ne veut rien dire, mais pour les plus anciens, ça veut dire quelque chose.
Une position qui gêne la droite traditionnelle. Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, a d'ailleurs rappelé à l'ordre ceux qui iraient chasser sur les terres du polémiste. C'était ce matin à votre micro, Laurence, sur CNews.
Et je le dis aussi à ma famille politique, ce n'est pas en faisant des clins d'œil ou des appels du pied à Éric Zemmour ou à Madame Le Pen qu'on attirera les électeurs à nous. La droite, elle doit être elle-même. Elle doit porter des convictions fortes sur des projets politiques au milieu des Français.
Et une petite musique commence à monter à l'extrême droite. Faut-il une alliance entre Marine Le Pen et Éric Zemmour ? Sur France Info, Robert Ménard, le maire de Béziers, ne veut fermer aucune porte.
Moi, je voterai, je l'ai dit aujourd'hui, Marine Le Pen, je la trouve plus rassurante qu'Éric. D'autre part, je me dis en même temps, je ne sais pas comment les choses évoluent. Non. Si demain, un des deux est à 8% et l'autre à 20%, il faudra en tirer un certain nombre de conséquences.
Au Rassemblement National, ces dernières enquêtes crispent les cadres. Personne ne s'attendait à ce que Marine Le Pen se fasse dépasser par sa droite, ni que sa stratégie de dédiabolisation soit à ce point invalidée. La candidate se montre plus offensive.
Nonobstant les provocations, que évidemment je ne reprends pas à mon compte, je ne vois pas bien la plus-value qu'il apporte, si vous voulez, sur le sujet de l'immigration et de l'insécurité. Je retrouve dans sa bouche des propositions que nous faisons depuis longtemps, que vous connaissez bien.
Marine Le Pen a passé des années à essayer de redorer l'image du Rassemblement National, à l'éloigner des propos de son père Jean-Marie. Pour l'instant, hors de question de revenir en arrière.
Voilà pour ce petit journal de campagne fait par Victor Chabert. Louis Hausselter, les lignes bougent, hein, ça y est, on le voit. Gilbert Collard hier, Robert Ménard aujourd'hui, qui disent « Allez, il va falloir se rassembler entre le Rassemblement National et Éric Zemmour ». C'est probable, c'est inéluctable selon vous ?
Que Marine Le Pen et Éric Zemmour discutent sereinement avant le premier tour, je ne suis pas sûr qu'on soit bien parti pour. En fait, Zemmour joue vraiment comme un piège sur Marine Le Pen, parce que pour elle, c'est insoluble. Soit elle lui répond, elle le critique et ses sympathisants à Marine Le Pen, qui regarde Zemmour toute la journée, adore ce qu'il dit depuis des années et des années, dont Zemmour a servi de théoricien, c'est-à-dire qu'il disait mieux que Marine Le Pen ce que Marine Le Pen voulait faire passer, en tout cas sur le plan du discours, du travail théorique et de la mise en mots de ce discours-là. Si Marine Le Pen lui tape dessus, forcément, la base sympathisante ne va pas comprendre. Et d'un autre côté, si elle ne dit rien, eh bien, elle avalise quelque part le fait politique qui est en train de se produire devant nous si les sondages continuent sur cette dynamique, qui est que Zemmour peut grand remplacer Marine Le Pen, comme le qualifier au second tour face à Emmanuel Macron. On n'est qu'en octobre, hein. Moi je suis pas du tout en train d'imaginer le débat Macron. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'imaginer le débat Zemmour-Macron. Moi, je me projette pas du tout là-dessus. Je pense que la plupart des gens n'ont pas encore la tête à ça. Mais pour Marine Le Pen, le sujet se joue maintenant, parce que le fait politique de Zemmour qui la double, ça se joue en ce moment même.
Isabelle Saporta.
Écoutez, c'est vraiment pas de bol pour Marine Le Pen, ça, j'avoue. Ça fait quand même effectivement des années qu'elle est là en train de dire que voilà, elle n'est plus le vieux Front National, elle est le nouveau Rassemblement National, que le Rassemblement National n'a plus rien à voir avec les dérives de son père. Et en fait, elle se retrouve avec quelqu'un qui a pris en son nom, au fond, tout ce qu'il y a de plus subversif, même dans le vieux Front National, qui fait une sortie de route par jour ou tous les deux jours pour faire effectivement des provocations, parce qu'il est trumpiste, en fait. Éric Zemmour, il a très bien compris que la campagne, elle se gagnerait comme ça, en faisant, en fait, du buzz tous les jours. Et du coup, c'est vrai qu'elle est là en train de nous dire, nonobstant les provocations, ben si, justement, tu vois, en fait, ce qu'ils aimaient, les gens, c'était les provocations. Donc là, il n'y en a plus. Donc quel est l'intérêt du Rassemblement National ? Alors, ce serait intéressant si au moins ça leur permettait de gagner la présidentielle, mais même pas, parce qu'il y a le plafond de verre. Donc du coup, pourquoi s'ennuyer avec Marine Le Pen quand on peut au fond avoir un peu plus de folklore avec Zemmour et en plus une chance de gagner. Ça, de fait, je vois pas comment elle va s'en sortir.
Alexandre Devecchio.
Non mais je crois qu'on est on
qui
est
se bidonne en écoutant
Isabelle. D'accord. En fait, en tout cas, oui, je rejoins Louis Hausselter. On sait pas encore ce qui va advenir de l'aventure Zemmour. Il peut se passer beaucoup de choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un manque de désir pour Marine Le Pen, mais qui était déjà perceptible après les régionales. C'est quand même une candidate, on lui dit pour la première, on dit aux électeurs, pour la première fois, elle est susceptible d'emporter 4 régions, il se déplace pas. Donc Marine Le Pen fonctionnait sur la marque Le Pen, d'ailleurs, sur le fait que son père avait, le premier, parlé d'un certain nombre de sujets, l'immigration, avait compris qu'il y avait un malaise identitaire dans ce pays, et la marque suffisait pour que les gens voilà, qui voulaient que ça bouge sur ces questions-là utilisent le vote Le Pen. Mais à partir du moment où il y a une offre qui paraît effectivement plus sexy, d'une certaine manière, peut-être qui permettrait peut-être de gagner, parce que qu'en fait aussi, je pense que dans l'épuisement du vote pour Marine Le Pen, il y a le débat raté d'entre deux tours, il y a le fait qu'il y a un plafond de verre, etc. Donc ils se disent pourquoi pas tenter autre chose avec quelqu'un qui effectivement apporte plus de spectacle, parce qu'il faut bien le dire que, et pour nous observateurs, c'est assez amusant à suivre.
Oui, de Ragnel, elle dit deux choses. Elle dit un, les provocations, moi je prends pas. Deux, les propositions, honnêtement, nous on les porte depuis des années. Ça peut fonctionner ça ou pas?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans la logique vraiment de tous les candidats à la présidentielle qui aujourd'hui décollent pas dans les sondages. Donc, ils sont tous méticuleux, donc ils organisent scrupuleusement des conférences de presse, des conventions avec des thématiques. Ils présentent semaine après semaine. Vous savez, c'est tout est très scolaire, hein, c'est-à-dire très académique. On présente donc le plan sur l'immigration, ensuite sur l'écologie, l'éolien, pour montrer qu'on est crédible. Et au Rassemblement national, il y avait un enjeu énorme de montrer ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en face d'elle, sur la forme, là je parle même pas du fond, sur la forme, vous avez un Éric Zemmour qui, je pense, ne fera pas de programme, qui globalement ne fera pas de déplacement en France, dans une usine ou je sais pas quoi, comme ça se fait avec une sorte de rituel, vous savez, ce qu'on appelle l'accueil républicain, avec toutes ces choses-là. Éric Zemmour, en plus, de lui-même, il assume totalement cette démarche. Il dit, moi, je me situe un peu au niveau stratosphérique, au niveau de la vision, du cap. Moi, je parle de la France. Je ne vais pas rentrer dans les micro-détails. Ça, pour le coup, ce sera la responsabilité de mon gouvernement. Moi, je fixe voilà, les grands objectifs et ensuite, les autres exécuteront. Et du coup, en fait, il y a un décalage énorme parce que Éric Zemmour fait un peu se situe un peu sur ce qu'on reprochait parfois à Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire parler comme ça dans tous les sens en imposant ses thèmes. Et de l'autre côté, elle a fait le choix radicalement opposé, voilà, du sérieux, de faire ses petits déplacements, ses petites séquences. Et donc, vous avez, voilà, Éric Zemmour qui, en plus, fait du Emmanuel Macron de 2016. Il utilise tous les codes d'Emmanuel Macron. Et donc, en fait, ça met le bazar, donc, on l'a dit, chez Marine Le Pen, mais ça met le bazar partout, parce que chez les Républicains, c'est encore plus colère, encore plus tout ce qu'on veut que chez Marine Le Pen.
C'est-à-dire
ils organisent des petites conventions.
Oui.
C'est des réunions délégués de classe, quoi. Enfin, vous voyez ce que, ils sont tous en train de savoir, voilà, alors est-ce qu'on va faire ça le 11 décembre à 11h46. Donc, là, il y a un grand débat. Les journalistes politiques font plein de papiers, écrivent. Voilà, je pense d'ailleurs que ça intéresse pas grand monde de suivre cette course de petits chevaux. Non, mais parce qu'il faut vraiment s'accrocher quand même pour suivre tout ça.
Pour l'hiver, là.
Non, mais objectivement, il faut vraiment s'accrocher pour suivre ça de très près. Et du coup, en fait, vous avez, en plus, et pour terminer, vous avez deux non-candidats qui sont les deux personnes qui intéressent le plus les gens, qui sont Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Tous ceux qui sont déjà déclarés, il y a un air de déjà-vu. Donc on verra comment ça se passera à l'avenir. Mais en tout cas, c'est voilà, juste un petit constat pour le moment.
Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec nos éditorialistes. On revient évidemment sur la situation à droite. On parlera peut-être un peu plus dans le détail des Républicains et de Damien Abad qui essaye encore une fois de faire reprendre position à sa famille politique. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve avec Isabelle Saporta, Louis Dragnel, Alexandre Devecchio et Louis Haussalter, nos éditorialistes, pour évoquer la situation à droite. Isabelle Saporta, les Républicains en état de mort cérébrale? Non, quand même pas. Néanmoins, ça va être compliqué de tenir jusqu'au 4 décembre le Congrès. Et puis après, comment départager celui ou celle qui sortira du Congrès face à Xavier Bertrand? Il y a une impasse totale aujourd'hui dans cette famille politique.
Mais c'est ça qui est hyper compliqué, parce que comme le disait très bien Louis Dragnel, c'est vrai qu'on est là, en fait, avec des gens qui sont pris dans des batailles internes et des querelles intestines et qui s'y noient et qui s'y... Vraiment, enfin, je sais pas, ça fait des semaines qu'ils piétinent là-dedans. Hein. D'abord, il fallait tuer la primaire. Bon, ça, Xavier Bertrand avait réussi à le faire. C'était plutôt bien joué de sa part, d'ailleurs. Puis après, il y a eu le Congrès. Et alors là, maintenant, le Congrès, on va voir jusqu'au 4 décembre. Et pendant ce temps-là, Éric Zemmour, enfin, je veux dire, il double de surface médiatique quasiment chaque semaine et il prend 4 points par semaine dans les sondages. Donc, on voit bien que l'espèce de procrastination, d'empêchement dans lequel est LR, est en train de lui flinguer entièrement sa campagne. Et par ailleurs, c'est vrai que là, en lisant par exemple ce matin l'interview qu'a donné Barnier dans le Figaro, tu te dis mais en fait, c'est effectivement Zemmour qui dicte la campagne de LR. Parce que Barnier, enfin, c'était le mec qui était pro-européen, enfin, juste une seconde sur Barnier, quoi. Le mec était gaulliste social, il était pro-européen, il s'est battu pour que le Brexit, ça n'arrive pas. Enfin, vraiment, c'était un truc de fou. Et là, le mec, il est pour le retour des frontières, l'Europe. Et il vous dit... non, mais c'est dingue. Le mec, c'est plus le même, quoi. Le mec, il a été métamorphosé par Zemmour, un coup de baguette magique. Et là, il vous dit, non, mais quand même, moi, justement, j'ai vu le Brexit et c'est pour ça que je vais être plus dur que dur. Donc du coup, j'ai vu le Brexit, j'ai vu Boris Johnson, du coup je vais faire pareil. Enfin, je comprends pas ce qu'est en train de faire Barnier. Donc je pense que les LR sont en train de devenir dingues. En tout cas, Barnier, je le reconnais pas parce que c'était quand même, enfin bon. Et donc voilà, je sais pas. C'est effectivement, c'est une espèce de, ils ont été zémourisés.
Louis Hausselter.
Mais le pire, Isabelle a très bien résumé les épisodes du feuilleton. Mais le pire, c'est que c'est un feuilleton qui n'intéresse personne. Mais Louis le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que non, mais rappelez-vous, il y a 5 ans, en 2016, tout le monde se passionnait. On a passé 3 mois sur la primaire de la droite, en étant tous persuadés que le prochain président de la République sera le vainqueur de cette primaire de la droite. Et il y avait, alors peut-être pas un bouillonnement d'idées, parce qu'ils pensaient tous la même chose, sauf le nombre de fonctionnaires qu'il fallait supprimer. Les débats s'en réduisaient quand même à ça. Mais il y avait une dynamique d'idées et de personnel aussi, puisqu'il y avait des gens qui avaient une certaine stature du côté de la droite. Là, il se produit la même chose avec la génération d'après, Pécresse, Bertrand, Barnier et consorts, sauf qu'en fait, tout le monde s'en fiche. La vie politique ne se situe plus là. Et pas grand monde pense que c'est le vainqueur du congrès, du coup, parce que c'est pas une primaire du 4 décembre, qui a toutes les chances d'être président de la République. Pendant que Zemmour dicte non pas l'agenda, mais les argumentaires de campagne, les thèmes de la campagne.
On va en parler là.
Exactement, il dicte ses thèmes. La droite se retrouve à courir derrière et en plus est emmêlée dans cette affaire de procédure à laquelle personne ne comprend rien, qui consiste à faire un bureau politique toutes les semaines pour savoir quand sera le suivant.
C'est ça.
Puis à la fin, comment est-ce qu'on va désigner le candidat ?
Alors, il dicte l'agenda des thèmes. Hier, il était sur ce plateau. Il a évoqué la question des enfants transgenres parce qu'il y a une circulaire qui a été émise par l'Éducation nationale pour mieux prendre en compte ses élèves dans le cadre du personnel administratif. Qu'il y a un cadre, au fond, pour les profs, parce que c'est très compliqué pour des professeurs d'appréhender des enfants qui sont entre deux identités, deux genres. Ça existe, c'est une réalité dans notre pays, même si je vous vois déjà réagir, Alexandre Devecchio, voilà. Et en fait, il a dynamité le thème hier en l'évoquant et en comparant Jean-Michel Blanquer au docteur Mengele. Louis de Ragnel, est-ce que c'est exprès, c'est une stratégie de prendre des vrais thèmes qui intéressent les Français et puis de les doubler d'une espèce de dynamitage complet.
Je sais pas très bien, j'ai l'impression, puisque je regardais quand vous l'avez interviewé, d'ailleurs vous l'avez posé les bonnes questions, on avait l'impression qu'il était très libre, totalement désinhibé, et donc lui en plus il est souvent dans une approche assez conceptuelle, donc il dit ça un peu comme il pourrait vous raconter ça dans un salon, avec des rebondissements, des gens qui disent mais c'est choquant et tout ça, donc je pense qu'il a même pas fait attention à ça. Ensuite évidemment la comparaison avec le docteur Mengele est ultra choquante, enfin non mais quand on regarde, non mais ce que je trouve un peu dommage sur cette séquence, c'est qu'il y a un vrai sujet qui est réellement, je pense, la pression des associations LGBT à l'éducation nationale, et il y a un sujet dont il faut parler, et on en a parlé d'ailleurs avec Alexandre Devecchio hier, et de l'autre côté, le problème, c'est que si avec ces phrases-là, en fait, ça tue complètement l'intérêt pour le
débat.
Pour le débat. Donc voilà, je pense qu'honnêtement, je vois pas quel est l'intérêt à utiliser régulièrement le champ lexical du nazisme. Voilà. Non mais très honnêtement, en plus lui est juif, d'origine juive, enfin tout le monde le sait. Je sais qu'il le fait aussi, je pense, parce qu'il sait qu'il est moins attaquable que si c'était Alexandre Devecchio, Louis Hausselter Marine Le Pen qui utilisait ces mots-là. Donc moi je me poserai réellement la question.
Alexandre Devecchio,
il prend des codes ça choque parce que c'est Éric Zemmour, mais on a entendu tout le week-end la majorité En Marche, le traité de virus, nous parler de lèpre populiste.
Peste
brune, ça fait des années
brune.
Qu'on traite de fasciste. À peu près tout le monde.
C'est pas la grandeur.
J'ai pas dit que c'était la raison pour le faire, mais on peut pas la peine de faire comme si on était choqué, puisque ça fait 30 ans que des gens évoquent le fascisme à tort et à travers. Donc sur ce, Éric Zemmour ne fait que reprendre les codes de l'adversaire.
Ensuite,
moi je pense qu'effectivement, d'un côté il caricature le débat, mais de l'autre côté on n'aurait jamais parlé de cette circulaire qui est quand même assez grave. Qui explique, pour parler très clairement, que fils, vous appelez votre fils Alexandre, mais s'il a décidé de s'appeler Alexandra, le maître d'école devra l'appeler Alexandra. Donc on est dans une circulaire de dingo. Et la circulaire en elle-même me choque beaucoup plus que la comparaison outrancière d'Éric Zemmour, qui a du reste permis qu'on parle de la circulaire. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, parce qu'effectivement il est désinhibé, mais en tout cas c'est efficace.
Isabelle Saporta.
Oui, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est efficace de comparer à Mengele, qui était donc, on va le rappeler quand même, hein, le médecin d'Auschwitz, celui qui a finalement pensé toutes les expérimentations sur les Juifs dans les camps d'extermination.
Et les enfants.
On est quand même là dans un truc, pardonnez-moi.
Il parle pas de Blanquer, il parle des cliniques américaines.
Non, mais...
Et si on connaît très bien la théorie du genre, il y a eu des expériences au départ qui ont causé des morts sur des jumeaux. Je pense donc qu'en fait, quand il pense à ça.
Alexandre, pardonnez-moi.
Je vais dire,
Alexandre, de fait, vous savez bien que cette comparaison, elle est juste inacceptable et qu'il le fait exprès. C'est ça qui me... Pardonnez-moi, c'est Donald Trump, Éric Zemmour. Il fait, à chaque fois, il passe la ligne. Parce qu'à chaque fois, il veut que ça crée, que ça suscite le buzz. Donc voilà, mais là, on n'est pas obligé à chaque fois de violenter la société comme il le fait. Et par ailleurs, pardonnez-moi, mais enfin, je ne pensais jamais de ma vie donner raison à Jean-Marie Le Pen. Oui, il se permet des choses parce qu'il est juif. Et je vous le dis d'autant plus simplement que je m'appelle Saporta. Hein? Donc, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un patronyme juif. Je ne supporte pas, en fait, qu'en tant que juif, il se permette finalement des choses que plus personne ne se permettrait de faire aujourd'hui. Parce que c'est vraiment, ça a des relents antisémites. Donc c'est pas possible ça, possible.
Je trouve la comparaison outrancière, je l'ai dit, mais je vois pas en quoi.
Mais comparer
les cliniques américaines à Mengele, c'est antisémite.
Dénoncer
les nazis, voir des nazis partout. Encore une fois, ça a été l'apanage de la gauche pendant 40 ans.
Isabelle,
vous le savez très bien.
Mais vous trouvez que c'est bien?
J'ai pas dit que c'était bien, mais je vois pas en quoi c'est antisémite.
Je veux dire, on est dans autre chose. Pardonnez-moi, mais le révisionnisme. Normalement, c'est l'apanage des antisémites. Et ça, c'est du révisionnisme. Voilà, c'est tout. Donc, on peut le voir comme on veut. Pardonnez-moi, mais sur Mengele,
il ne relie pas l'histoire, là.
Mengele,
non, moi je pense qu'il fait une comparaison qui pour moi n'a pas lieu d'être parce que dans un cas c'était dans des camps de concentration dans des circonstances épouvantables et dans un autre cas
c'est quoi alors
mais après il faudrait l'interroger mais c'est une émission d'histoire et qui nous raconte sa vision de Mengele.
La comparaison avec Trump est intéressante parce que Trump vient après on dit la post-vérité de Donald Trump mais la post-vérité c'est ceux qui ont déconstruit la société pendant des années. Il ne faut pas oublier que ce type de candidat populiste arrive après un passif et encore une fois l'antifascisme, on en a soupé à tort et à travers. Donc, j'ai pas dit qu'il fallait faire les mêmes choses. Je dis simplement que Éric Zemmour est peut-être pas plus révisionniste quand il l'est pas, d'abord, pas plus outrancier que ceux qui voient des fascistes partout depuis 40 ans. Alors qu'effectivement, le fascisme et le nazisme ont été vaincus depuis 1945.
Dans un instant, dans Punchline, on poursuit ce débat sur les dérapages d'Éric Zemmour. À tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve avec Alexandre Devecchio, Louis de Ragnel, Isabelle Saporta, Louis Hausalter. On ne vous a pas entendu, Louis Hausalter, à propos de ces deux visions de la société, au fond, qui s'opposent, celle d'Emmanuel Macron, celle d'Éric Zemmour. On parlait des enfants transgenres, de cette circulaire de l'éducation nationale. Ces deux visions de la société, au fond, qui s'opposent.
Mais en fait, ça, j'en suis même pas sûr. Vu les mouvements permanents d'Emmanuel Macron, moi, je retrace je pars de la campagne de Macron en 2016-2017. J'arrive à l'automne 2021 maintenant. Je ne sais pas exactement quelle est la vision de la société d'Emmanuel Macron, en fait. Je ne peux pas vous le dire. Je vois à peu près celle de Zemmour. Ça, il nous l'explique depuis assez longtemps. Et puis, il l'explique de plus en plus fort, donc on voit. Mais Emmanuel Macron, entre celui qui disait en Algérie,
Nation,
en 2016, que la colonisation était un crime contre l'humanité, et qui maintenant explique qu'il y a une rente mémorielle du régime algérien, qu'il n'y a jamais eu une nation algérienne avant la colonisation française, et que d'ailleurs, il y aura moins de visas pour les Algériens. Vous voyez, j'ai du mal à saisir la cohérence, le parcours à tisser des fils dans ce parcours-là. Il mène une guerre de mouvements, c'est-à-dire que Macron, c'est un bon tacticien, je ne sais pas si c'est un bon stratège, c'est un bon tacticien. Il voit d'où viennent les coups et il répond par des actes, typiquement l'affaire des visas algériens et marocains. Quand il répond, pendant que Zemmour parle de ces sujets-là, lui, il dit, regardez, j'ai pris telle décision, j'ai pris tel décret, j'ai pris telle mesure. Donc, je ne sais pas si c'est un choc de vision du monde, je pense qu'on le saura si jamais il y a un débat de second tour Macron-Zemmour, ce dont je ne suis pas persuadé à l'heure actuelle, mais
mais vous pensez pas que les sondages d'aujourd'hui
la campagne sera non, pas du tout. Et le champion d'automne n'est jamais le champion du printemps. C'est très rare.
Macron ne sera pas au second tour, c'est une hypothèse que personne ne voit. Mais je pense qu'il rebat tellement les cartes dans cette élection que Macron et Le Pen faisaient système d'une certaine manière. Pour le coup, prétendaient avoir deux visions opposées. Peut-être que ça va bouleverser totalement l'échiquier politique.
Isabelle Saporta. Moi, contrairement à vous, je trouve que Zemmour, c'est effectivement. pour le vis-à-vis des partis politiques, c'est l'anti-Macron. C'est-à-dire Macron pulvérise les partis et est un peu nulle part. En fait, Zemmour est en train de faire ce dont rêve la droite depuis toujours, c'est-à-dire une union des droites. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas, effectivement, s'il devient le champion de la droite et s'il est fort comme il est fort, comment ils vont pouvoir continuer à décider, à faire, enfin, sans lui, en fait. Ils vont être quasiment...
Et le RN, attendez le 4 décembre, le lendemain du congrès.
Mais ça va être compliqué.
En vrai,
ça va être très compliqué.
Vous allez voir 4 décembre.
Qu'est-ce qui peut se passer
Mais 4 décembre, lendemain du congrès, on voit bien, il y a deux lignes irréconciliables au sein des. En fait, il y en a trois. Il y a les technos qui ne pensent pas grand-chose. Il y a ceux qui sont compatibles avec Emmanuel Macron, centre droit et libéraux. Et il y a les conservateurs. Et clairement, si c'est quelqu'un du centre droit ou libéral, dont on sait en plus qu'il a essayé de rentrer au gouvernement par le passé d'Emmanuel Macron, qu'il a fait des offres de service pour être Premier ministre, par exemple, eh bien, pour l'électorat conservateur de droite, c'est impossible. Ils ne pourront pas voter pour lui. Et donc, mécaniquement, si vous voulez, c'est des gens qui se retrouvent parfaitement dans la vision d'Éric Zemmour sur la droite du RPR. Mécaniquement, ils rejoindront Éric Zemmour. Et je pense que Éric Zemmour a bien ça en tête. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça m'étonnerait qu'il déclare sa candidature avant le 4 décembre.
Carrément, jusqu'au 4 décembre.
Qu'est-ce qui presse, chère Laurence, au lendemain du 4 décembre, du coup, il pourrait éventuellement avoir des ralliements. Parce que ce dont il manque quand même aujourd'hui, il y a une petite différence quand même entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Macron avait quand même quelques politiques autour de lui. Il y avait Gérard Collomb, le maire de Lyon. Alors, ce n'était pas forcément Richard les meilleurs, Ferrand, mais c'était, il y avait Christophe Castaner qui était député des Alpes-Maritimes. Et du coup, Éric Zemmour, il faut qu'il attende cette échéance. C'est la première étape éventuelle, parce qu'on verra ce que ça donnera. Mais la possibilité de désintégration de la droite peut intervenir, en tout cas, au lendemain du 4 décembre.
Alexandre Drecchio.
Moi, je pense que ça fait des années qu'on est dans un processus de décomposition et de recomposition. Lors de la dernière élection, en fait, la décomposition de la gauche a été jusqu'au bout, avec une reconstitution, finalement, d'un centre. Macron a réuni les centristes de gauche et de droite, les libéraux, les européistes, et en face, il y a quand même les adversaires, en réalité, de la mondialisation, parce que le clivage, il est là-dessus. La mondialisation est un phénomène total, aussi bien sur le plan économique que sur le plan culturel. Marine Le Pen ne pouvait pas l'incarner parce qu'elle venait malgré tout de l'extrême droite. Moi, je pense qu'elle était plus d'extrême droite, mais son parti avait cette généalogie-là. Elle était la fille de Jean-Marie Le Pen et il fallait un leader populiste de droite. Et en fait, Éric Zemmour est en train de réussir ce qu'a réussi Donald Trump, ce qu'a réussi Boris Johnson. Et en fait, on va avoir deux populistes d'une certaine manière. Si on considère que le populiste est un style, c'est-à-dire un homme face au peuple, sans apparence, pareil, sans corps intermédiaire, un populiste du centre qui est Emmanuel Macron et un populiste de droite qui est Zemmour.
De l'esprit de la Ve République.
Oui, tout à fait, parce que De Gaulle était aussi un bonapartiste, un populiste.
Il y a un autre sujet qui s'est imposé dans l'actualité et qui a trait à la religion, à la faveur du rapport Sauvé, la commission évidemment qui a révélé l'ampleur du scandale de la pédocriminalité en France, 300 000 victimes à peu près sur plus de 70 ans. Et à la faveur de ce rapport, le président de la Conférence des évêques, Monseigneur Moulin
Beaufort,
a exprimé une vision de la confession qui est assez, on va dire, qui heurte les valeurs républicaines, puisqu'il dit que le secret de la confession est supérieur à la loi de la République. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui reçoit un criminel en confession ne peut pas saisir le procureur pour les crimes en cours. Louis de Raguenel, Gérald Darmanin s'est expliqué cet après-midi, il va non pas convoquer, mais inviter le président de la Conférence des évêques à venir au ministère la semaine prochaine. Il y a un bras de fer, il y a une tension réelle entre le clergé et le gouvernement français.
Initialement, le gouvernement ne voulait absolument pas tendre ce match, créer ce match, mais effectivement, les propos de Monseigneur de Moulin-Beaufort ont fait le buzz, la polémique sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ils n'ont pas été compris. Parce que, après,
il dit les lois de l'Église sont supérieures aux lois de la République.
Ensuite, il ne dit pas les lois de l'Église, il dit l'inviolabilité du secret de la confession ne peut pas se soumettre en gros à la loi. Sauf qu'en fait, ce qu'il aurait dû...
Il ne dit pas ça. Les lois de l'Église sont
supérieures. Non, il ne dit pas les lois.
Je crois
qu'il parle vraiment précisément du secret de la confession. Et en fait, non, mais ce qui est compliqué, c'est que cette séquence intervient à un moment, effectivement, vous venez de parler, où l'Église fait l'opération entre guillemets impropre, et donc il y a cette charge émotionnelle hyper forte, ce séisme.
Et de l'autre côté, en fait, le secret de la confession répond effectivement au droit canon, parce que tout ce qui régit l'organisation de la vie de l'Église catholique, c'est le droit canon, et ça dépend de Rome. Et donc, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort ne pourrait jamais de lui-même expliquer que le secret de la confession devient violable ou qu'on peut le lever, dans la mesure où c'est même pas lui tout seul ne peut pas décider ça, c'est au pape de décider ça. Et du coup, en fait, le problème dans cette histoire, c'est qu'il aurait dû expliquer ce qui se passe réellement et concrètement dans l'Église catholique aujourd'hui en France. C'est que le secret de la confession, heureusement qu'il y a le secret, parce que d'ailleurs, c'est ce qui permet aussi à des victimes de venir se confier, parce qu'ils savent que quand ils vont s'exprimer sous le secret de la confession à des prêtres, ce ne sera pas répété. Là, ça, c'est le premier élément. Et ensuite, le prêtre est censé, et c'est aujourd'hui ce qui se passe de plus en plus, orienter la personne qui se dit victime d'inceste, de viol ou de je ne sais pas quoi, d'aller vers les bonnes personnes. Et donc, en fait, ce qu'aujourd'hui l'Église catholique met en place, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le secret de la confession est maintenu et le prêtre dit, voilà, en dehors du cadre de la confession, évidemment, si quelqu'un a commis quelque chose déjà, il ne peut pas avoir l'absolution, il ne peut pas être pardonné s'il ne répare pas, et donc s'il ne va pas se remettre devant la justice civile, et donc devant les lois de la République, pour répondre à ce que vous disiez. Donc voilà, mais c'est un sujet compliqué, parce que ça touche aussi à la transcendance, à l'intimité de la vie. Non mais, si vous voulez, la place de la foi, là où c'est compliqué, c'est que c'est dans l'immatériel, et que les lois de la République, c'est dans le matériel. Et donc,
et on critique tant les religions, et je pense aussi à une autre religion sur le fait
qu'on
mettrait les principes de la République en dessous des principes.
Mais avec, deux choses différentes. C'est-à-dire que pour l'islam, ce qui posait problème, c'était parce que l'islam souhaitait imposer des choses à la société française, là où la religion catholique, il y a un problème actuel, mais ne cherche pas à imposer un modèle à la société.
Isabelle Saporta, un tout petit mot là-dessus.
Enfin, dites-moi, juste pour le moins, vous pouvez reconnaître que c'est particulièrement maladroit. C'est-à-dire qu'au moment où il y a cette grande opération, si je puis me permettre, main propre, où on essaye de voir un petit peu quelles ont été les victimes, qu'on essaye enfin de mettre au jour toutes ces victimes, ces souffrances, etc., où tu as justement, dans la hiérarchie ecclésiastique de la religion catholique, quelqu'un qui dit non, mais écoutez, on va remettre le couvert là-dessus, on va surtout rien dire, et ce sera comme avant. C'est inaudible, en fait.
Je suis d'accord avec vous, exactement ce qu'il dit.
Oui, ok, on vous a bien entendu, juste un mot des autres, vous ça me taire.
Quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que en fait, le secret de la confession est prévu par les lois de la République. On ne le sait pas, mais moi j'ai découvert ça récemment. Dans les relations entre le ministère de l'Intérieur et les cultes, donc l'Église catholique en particulier, le secret de la confession pour un prêtre est l'équivalent du secret professionnel pour n'importe quelle profession qui serait concernée. Ça veut dire qu'un prêtre peut être poursuivi en justice s'il révèle ce qu'on lui a dit en confession. Il y a quand même des exceptions, dont les crimes sexuels sur mineurs de moins de 15 ans, je crois. C'est-à-dire que là, si un prêtre entend vraiment quelque chose d'une gravité de cette ampleur, et on l'a vu en plus avec le rapport de la commission ces derniers jours, là, il y a une exception qui est prévue par la loi. Mais c'est amusant de voir que dans les relations entre l'État et l'Église, la loi prévoit...
C'est là où le secret de la confession s'oppose pas aux lois de la République, c'est que la circulaire...
Mais on ne peut pas hiérarchiser. L'erreur est de hiérarchiser les deux.
La circulaire 2004 de François Molins précise justement que le prêtre, comme le médecin, comme ces professions-là, ont la faculté de le lever dans certaines circonstances et donc d'en parler avec la personne qui se confie et ensuite de l'orienter vers les bonnes personnes.
Merci beaucoup, avocat, d'avoir participé à ces débats dans Punchline. Et puis, encore une fois, un hommage à Étienne Maujotte, 80 ans. Il s'est éteint, grand patron de presse, numéro 2 du groupe TF1. Il a fait les grandes heures de TF1 avec Patrick Lelay, Europe 1 aussi. C'était une voix d'Europe 1. Et évidemment, on a une pensée pour ses proches et pour le grand homme de presse qu'il a été. Merci à vous de votre fidélité, chers amis auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour Punchline. Tout de suite, c'est Mouloud Achour pour Verveine Underground. Bonne soirée sur Europe 1.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.